Mémorial de Sainte-Hélène par le comte de Las Cases, quatrième partie, chapitre 6, fragment de la campagne d'Italie, suite deuxième. Je vais mettre ici ce qui me reste des chapitres de l'armée d'Italie pour ne les pas trop éloigner de ceux qui précèdent. L'intérêt qu'ils présentent me laisse un vif regret de n'en avoir pas davantage. On verra même que celui de Léoben se trouve incomplet. Toutefois, il en sera d'autant plus précieux que je crois me rappeler qu'il n'a pas été conservé tout à fait sous la même forme. Il deviendra curieux de pouvoir comparer la première dictée avec le travail arrêté. Au surplus, au moment d'envoyer ici à la réimpression, il n'a encore paru des mémoires de la campagne d'Italie qu'un seul volume, jusqu'à la bataille de Rivoli inclusivement, et je dois dire que j'y remarque des chapitres entièrement neufs et que ceux que je connaissais montrent parfois quelque accroissement dans les détails. Soit que Napoléon, dans ses loisirs, y soit revenu par pure prédilection, soit qu'il y ait été amené par la connaissance d'ouvrages publiés en Europe sur le même sujet. Bataille du Tagliamento, depuis le passage de la Piave le 13 mars 1797 jusqu'à l'entrée de l'armée française en Allemagne le 28 du même mois, espace de 17 jours. 1. Situation de l'Italie au commencement de 1797. La paix de Tolentino avait rétabli les relations avec Rome. La cour de Naples était satisfaite de la modération des Français à l'égard du pape. Elle y voyait une preuve que l'intention de la République était de ne pas se mêler des affaires intérieures et de ne donner aucun appui aux mécontents. Nous étions maîtres de la République de Gênes. Le parti oligarchique y était sans crédit. Les républiques Cispadane et Transpadane étaient animées du meilleur esprit. Nous y trouvions toute espèce d'assistance. En Piémont, Alexandrie, Fenestrelle, Cherasque, Coni, Tortone avaient garnison française. Suse, la Brunette et Desmond étaient démolis. La misère et le mécontentement étaient à l'extrême parmi le peuple. Des mouvements d'insurrection s'étaient manifestés dans diverses provinces contre la cour. Le roi de Sardaigne avait réuni ses troupes de ligne en corps d'armée pour les dissiper. Le général français avait tout fait pour maintenir l'ordre et la tranquillité en Piémont. Il avait souvent menacé de faire marcher des troupes contre les mécontents, mais les communications étaient rétablies entre le Piémont, la France et les républiques Cispadane et Transpadane. L'esprit qui dominait dans ces républiques se propageait en Piémont. Les officiers et les soldats français, animés des principes républicains, les propageaient dans toute l'Italie. Les circonstances étaient devenues telles qu'il fallait pour assurer les desseins du général français ou détruire le roi de Sardaigne ou dissiper entièrement toutes ses inquiétudes et contenir les mécontents. Le général français imagina de proposer un traité offensif et défensif à la cour de Sardaigne. Il fut signé par le général Clark et le marquis de Saint-Marsan. La République garantissait au roi sa couronne. Le roi déclarait la guerre à l'Autriche et fournissait un contingent de 10 000 hommes et 20 pièces de canon à l'armée française. Ce traité était très important pour l'exécution du grand plan du général en chef. Son armée se trouvait renforcée et il avait avec lui des otages qui lui assuraient le Piémont pendant son absence de l'Italie. Mais le directoire ne sentit pas l'importance dans ce traité. Il en ajourna constamment la ratification. Cependant, la publication du traité donna un nouveau crédit au roi et découragea les malveillants. L'état de Venise seul donnait des inquiétudes. Brescia, Bergame, la Polésine, une partie du Vicentin et du Padouan étaient parfaitement disposés pour la cause française. Mais le parti autrichien, qui était celui du Sénat de Venise, pouvait disposer de la plus grande partie du Véronais et de 12 000 esclavons qui étaient dans Venise. Tous les moyens que Napoléon put imaginer pour aplanir les difficultés ayant échoué, il fut obligé de passer outre et de se contenter d'occuper la forteresse de Vérone et laisser un corps de réserve pour observer le pays vénitien et garantir la sûreté de ses arrières. On verra dans le chapitre suivant les raisons qui s'opposèrent à ce qu'il mit fin aux troubles de cette république avant d'entrer en Allemagne. II, l'empereur d'Allemagne refuse de reconnaître la République française et d'entrer en négociation. Le général français se dispose à l'y forcer. Avant et après la prise de Mantoue, diverses ouvertures pacifiques avaient été faites à la cour de Vienne. Toutes furent infructueuses. Le général Clark avait été envoyé de Paris avec une lettre du directoire à l'empereur d'Allemagne et des pleins pouvoirs pour négocier et conclure des préliminaires de paix. Une conférence avait eu lieu à Vichensee avant la bataille de Rivoli entre Clark et le baron de Vincent, aide de camp de l'empereur. Ce dernier dit que son maître ne reconnaissait point la République française et ne pouvait entendre parler de paix sans le concours de son allié, c'est-à-dire de l'Angleterre. Depuis la prise de Mantoue, Clark fit une seconde tentative. Il se rendit à Florence et vit le grand-duc. Il obtint la même réponse. Le général français, tranquille sur l'Italie, résolut de rejeter les Autrichiens au-delà des Alpes juliennes et de les poursuivre sur la Drave, sur la Mure, de passer le Simmering et d'obliger l'empereur d'Autriche à signer la paix dans Vienne. Le projet était vaste. Le succès paraissait assuré. Le général en chef promit la paix au gouvernement français dans le courant de l'été. L'armée de l'Italie n'avait jamais été si belle, si nombreuse, ni en meilleur état. Elle se composait de 8 divisions d'infanterie, de 6 000 chevaux, et comptait 150 pièces de canon bien attelées. Ses troupes étaient bien habillées, bien chaussées, bien nourries, bien payées, composées de vieux soldats et d'excellents officiers. Cette armée d'environ 60 000 hommes pouvait tout entreprendre. L'armée française, depuis la prise de Mantoue, menaçait directement les États héréditaires de la maison d'Autriche. Ses avant-postes étaient sur les frontières. Les armées françaises du Rhin et de Sambre-et-Meuse, qui avaient leur quartier d'hiver sur la rive gauche du Rhin, en étaient éloignées de plus de 100 lieues, en étant séparées par les États du corps germanique. L'armée d'Italie était éloignée d'environ 180 lieues de Vienne, et les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse de plus de 200 lieues. L'armée d'Italie fixa donc toute l'attention de la cour de Vienne. Le prince Charles, qui avait obtenu des succès sur le Danube dans les campagnes précédentes, fut envoyé sur la Piave avec 40 000 hommes de renfort, des meilleures troupes de la monarchie. Dès le mois de janvier, les ingénieurs autrichiens parcouraient tous les cols et les hauteurs des Alpes nordiques, projetaient des retranchements, dressaient des plans pour fortifier Gradisca, Klagenfurt, Tarvis. Mais tous ces travaux ne pouvaient se commencer qu'après la fonte des neiges, qui, dans les Alpes nordiques, ne disparaissent que vers la fin de mars. Il était donc important de prévenir l'ennemi avant qu'il n'eût réuni tous ses moyens, et retrancher les gorges et passages difficiles qu'on avait à traverser. Napoléon résolut d'être en Allemagne à la fin de mars. 3. Plan de campagne de l'armée française pour marcher sur Vienne. Le Brenner est la sommité la plus élevée des Alpes du Tyrol. C'est la division géographique de l'Allemagne et de l'Italie. L'Inn, l'Adda et l'Adige prennent leur source sur cette haute chaîne. L'Inn coule du sud-ouest au nord-est, 50 lieues dans le Tyrol, sur le revers du Brenner, vers le Danube, dans lequel il se jette, séparant la Bavière de l'Autriche. L'Adda, dont les sources sont près de celles de l'Inn, coule du nord au sud et se jette après 28 lieues de cours dans le lac de Côme, d'où elle sort pour traverser la Lombardie. L'Adige, qui prend sa source à peu de lieues de celle de l'Inn, court du nord au sud, à 50 lieues de l'autre, penchant du Brenner, entre en Italie à Vérone, d'où elle se jette dans l'Adriatique près de l'embouchure du Pô. Un grand nombre d'affluents coulent dans ces diverses rivières et forment des gorges à pic où il est impossible de pénétrer sans être maître des sommités. C'est la partie des Alpes la plus rude et la plus difficile, celle qui est la plus coupée et dont la pente est la plus brusque. Pour se rendre de l'Italie à Vienne, il n'y a que 3 grandes chaussées, celle du Tyrol, celle de la Carinthie et celle de la Carniole. La première traverse la chaîne supérieure des Alpes au col du Brenner, la seconde au col des Alpes noriques entre Ponteba et Tarvis, la troisième au col des Alpes de la Carniole, à quelques lieues de Lebach. Suivant la loi générale des Alpes, le col du Brenner est beaucoup plus élevé que le col du Tarvis, le col de Tarvis que celui de Lebach. La chaussée du Tyrol part de Vérone, remonte la rive gauche de la Dige, passe à Trente, Bolzano, Brixen, traverse le Brenner à 60 lieues de Vérone, rencontre l'Inn à Innsbruck, à 9 lieues et demie, longe l'Inn jusqu'à demi-chemin de Rattenberg et Kufstein, et trouve Salzbourg à 34 lieues et demie, d'où elle traverse Enns sur le Danube à 32 lieues et de là jusqu'à Vienne court 36 lieues. Cette chaussée, qui porte le nom de chaussée du Tyrol, a donc de Vérone à Vienne 171 lieues. La chaussée de la Carinthie parle de Saint-Daniel, traverse la chaîne des Alpes noriques entre Tarvis et la Ponteba et parcourant 31 lieues. Elle passe la Drave à Villach à 24 lieues et demie, traverse Klagenfurt, capitale de la Carinthie, à 8 lieues de Villach, rencontre la Mure qu'elle suit jusqu'à Judenburg à 20 lieues et demie et continue en serpentant sur l'une et l'autre rive jusqu'à Bruch pendant l'espace de 12 lieues. De Bruch, la chaussée quitte la Mure et monte pendant 12 lieues sur le Simmering, montagne qui sépare la vallée du Danube de la vallée de la Mure, et de là descend dans la plaine qui conduit à Vienne, qui n'en est plus qu'à 20 lieues. Il y a donc des frontières de l'Italie à Vienne, 97 lieues, ou de Saint-Daniel, 128 lieues. La chaussée de la Carniole part de Goritz, arrive à Laibach après 27 lieues, passe la Save, les Alpes et descend sur la Drave, qu'elle passe à Marbourg, à 30 lieues et demie de Laibach. De Marbourg, elle rencontre la Mure à Ehrenhausen, à 4 lieues et demie. Elle longe cette rivière jusqu'à Bruch, en passant par Graz, capitale de la Styrie, pendant l'espace de 26 lieues. Là, elle rencontre la chaussée de la Carinthie, de Goritz à Vienne. Il y a donc par la chaussée de la Carniole 103 lieues. La chaussée du Tyrol se joint à la chaussée de la Carinthie par 6 communications transversales. Premièrement, un peu au-dessus de Brixen, une chaussée dite Pusterstal prend à droite, remonte un des affluents de l'Adige, passe à Linz-Spital et aboutit à Villach, à 46 lieues et demie de Brixen. Deux de Salzbourg par une chaussée qui traverse Rastatt, rencontre Pusterstal à Stippal et arrive à Villach, à 52 lieues de Salzbourg. Troisièmement, de la seconde chaussée transversale à 4 lieues au-dessous de Rastatt, par une chaussée qui suit la Mure jusqu'à Scheifink, où elle rencontre la chaussée de la Carinthie, elle a environ 16 lieues. Quatrièmement, de Linz sur le Danube, par une chaussée qui passe Dens, près de Rottenmann, traverse les hautes montagnes et descend sur Judenburg. Cinquièmement, Dens sur le Danube, une chaussée remonte Lens pendant environ 20 lieues et redescend sur Leoben pendant environ 8 lieues. Sixièmement, enfin, du Danube par Saint-Polten, une chaussée arrive à Bruch, qui en est à environ 24 lieues. Les deux chaussées, de la Carniole et de la Carinthie, se joignent par 3 communications transversales. Premièrement, de Goritz, en remontant l'Isonzo pendant 10 lieues, on arrive à Caporetto, où l'on trouve la chaussée d'Udine. 6 lieues plus haut, on trouve la Chiosa autrichienne. Et enfin, 5 lieues plus haut, Tarvis, où elle joint la chaussée de la Ponteba ou de la Carinthie. Deuxièmement, de Laibach par une chaussée qui traverse la Save, la Drave, et arrive, après 17 lieues, à Klagenfurt. Mais elle est très difficile pour l'artillerie. Et troisièmement, enfin, de Marbourg, une chaussée remonte la Drave et arrive, après environ 25 lieues, à Klagenfurt, où elle rencontre les chaussées de la Carinthie et de la Carniole qui cheminent parallèlement à une vingtaine de lieues l'une de l'autre et n'ont plus aucune communication transversale praticable aux voitures. Le projet de Napoléon était de pénétrer en Allemagne par la Carinthie, traverser la Carniole, la Styrie et d'arriver sur le Sebring. Mais le prince Charles avait deux armées, l'une en Tyrol et l'autre derrière la Piave. Il fallait donc laisser une partie de l'armée en observation contre l'armée du Tyrol. Le général français préféra prendre également l'offensive aux environs du Tyrol, les faire arriver jusqu'à Brixen et les diriger sur Klagenfurt par la chaussée de Pustenstal, dans le temps que le principal corps d'armée se porterait sur la Piave, traverserait le Tagliamento, déboucherait par la chaussée de la Carinthie sur la Drave et Villach, où il serait rejoint par son aile du Tyrol. Et alors toute l'armée réunie marcherait sur le Simmering. 3 divisions, formant un ensemble de 15 000 hommes sous les ordres du général Joubert, furent destinées à l'opération du Tyrol. 4, sous les ordres du général en chef en personne, faisant 35 000 hommes, marchèrent sur le Tagliamento. Le 8e, qui se composait en partie des troupes qui avaient marché sur Rome, fut destiné à former un corps d'observation contre Venise et assurer la tranquillité de nos arrières. Les généraux de division Braguet-Dillier et Delmas commandaient dans le Tyrol sous Joubert. Les généraux Masséna, Serrurier, Guyeux et Bernadotte étaient à la tête des 4 divisions d'infanterie qui marchaient sur le Tagliamento, le général Dougois commandait la cavalerie. Les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse devaient passer par le Rhin et entrer en Allemagne, de manière à arriver sur la Lech et le Danube en même temps que l'armée française arriverait sur le Simmering. On avait compté sur la division du Piémont, forte de 10 000 hommes. Mais le retard des ratifications priva l'armée française de ce renfort si important. 4. Passage de la Piave, 13 mars. Dans le Tyrol, tout le mois de février se passa en fortes escarmouches. Les Autrichiens s'y étaient montrés en force et très hardis. Sur la Piave, le prince Charles fit divers mouvements pour profiter de l'éloignement d'une partie de l'armée française qu'il supposait sur Rome. Le général Guilleux se crut menacé à Trévise et repassa la Brenta. Mais le prince Charles, mieux instruit, sut que le général français n'avait mené sur Rome que 4 ou 5 000 hommes et s'arrêta. Tout se réduisit à quelques escarmouches. Le quartier général français arriva dans les premiers jours de mars à Bassano. La proclamation suivante fut mise à l'ordre du jour. « La prise de Mantoue vient de finir une campagne qui vous a donné des titres éternels à la reconnaissance de la patrie. Vous avez remporté la victoire dans 14 batailles rangées et 70 combats. Vous avez fait plus de 100 000 prisonniers, pris à l'ennemi 500 pièces de canons de campagne, 2 000 de gros calibre, 4 équipages de pont. Les contributions mises sur les pays que vous avez conquis ont nourri, entretenu, soldé l'armée pendant toute la campagne. Vous avez en outre envoyé 30 millions au ministère des Finances pour le soulagement du trésor public. Vous avez enrichi le Muséum de Paris de plus de 300 objets, chefs-d'œuvre de l'ancienne et de la nouvelle Italie, et qu'il a fallu 30 siècles pour produire. Vous avez conquis à la République les plus belles contrées de l'Europe. Les républiques lombardes et transpadanes vous doivent leur liberté. Les couleurs françaises flottent pour la première fois sur le bord de l'Adriatique, en face et à 24 heures de navigation de l'ancienne Macédoine. Les rois de Sardaigne, de Naples, le pape, le duc de Parme se sont détachés de la coalition de nos ennemis et ont brigué notre amitié. Vous avez chassé les Anglais de Livourne, de Gênes, de la Corse. Mais vous n'avez pas encore tout achevé. Une grande destinée vous est réservée. C'est en vous que la patrie met ses plus chères espérances. Vous continuerez à en être digne. De tant d'ennemis qui se coalisent pour étouffer la République à sa naissance, l'empereur seul reste devant vous. Se dégradant lui-même du rang d'une grande puissance, ce prince s'est mis à la solde des marchands de Londres. Il n'a plus de volonté de politique que celle de ces insulaires perfides qui, étrangers au malheur de la guerre, sourient avec plaisir aux maux du continent. Le directoire exécutif n'a rien épargné pour donner la paix à l'Europe. La modération de ses propositions ne se ressentait pas de la force de ses armées. Il n'avait pas consulté votre courage, mais l'humanité et l'envie de vous faire rentrer dans vos familles. Il n'a pas été écouté à Vienne. Il n'est donc plus d'espérance pour la paix qu'en allant la chercher dans le cœur des États héréditaires de la maison d'Autriche. Vous y trouverez un brave peuple, accablé par la guerre qu'il a eue contre les Turcs et par la guerre actuelle. Les habitants de Vienne et les États d'Autriche gémissent sur l'aveuglement et l'arbitraire de leur gouvernement. Il n'en est pas un qui ne soit convaincu que l'or de l'Angleterre a corrompu les ministres de l'empereur. Vous respecterez leur religion et leurs mœurs. Vous protégerez leurs propriétés. C'est la liberté que vous apporterez à la brave nation hongroise. La maison d'Autriche, qui depuis 3 siècles va perdant à chaque guerre une partie de sa puissance, qui mécontente ses peuples en les dépouillant de leurs privilèges, se trouvera réduite, à la fin de cette 6e campagne, puisqu'elle nous contraint à la faire, à accepter la paix que nous lui accorderons et à descendre dans la réalité au rang des puissances secondaires où elle s'est déjà placée en se mettant au gage et à la disposition de l'Angleterre. Signé Bonaparte. L'armée se mit en mouvement. Il fallait passer la Piave, que défendait l'armée du prince Charles, et chercher à gagner avant lui les gorges d'Osopo et de la Ponteba. Masséna, avec sa belle division, fut destiné à remplir cet objet important. Il partit de Bassano, passa la Piave et le Tagliamento dans les montagnes, tournant ainsi toute l'armée du prince Charles. Celui-ci détacha une division pour l'opposer à cette manœuvre. Masséna la battit, la poursuivit l'épée dans les reins, lui prit beaucoup de monde et quelques pièces de canon. Parmi ces prisonniers se trouva le général de Lusignan, qui avait insulté les malades français, ses compatriotes, aux hôpitaux de Brescia, durant les succès éphémères de Wurmser. Masséna se rendit maître de Feltre, de Cadore, de Bellune, menant battant la division autrichienne sans éprouver de pertes considérables. Le général en chef se porta le 12 sur Asolo avec la division serrurier, passa la Piave à la pointe du jour, marcha sur Codeliano où était le quartier général autrichien, tournant ainsi toutes les divisions autrichiennes qui défendaient la basse Piave, ce qui permit au général Guilleux d'exécuter son passage à 2 heures après-midi à l'Ospedaletto. La rivière dans cet endroit est assez haute et eût exigé un pont, mais la bonne volonté y suppléa. Un seul tambour courut des risques et fut sauvé par une vivandière de l'armée qui se jeta à la nage. Le général en chef la récompensa en lui attachant au cou une chaîne d'or. Le 12, le général français fut à Conegliano avec les divisions Serrurier et Guilleux. La division Bernadotte rejoignit le lendemain. Le prince Charles avait choisi les plaines du Tagliamento pour champ de bataille, les croyant avantageuses pour tirer parti de sa cavalerie. Son arrière-garde essaya de tenir à Sacile, mais elle fut battue par le général Guilleux, qui y entra le 13. 5. Bataille du Tagliamento, 16 mars. Le 19, à 9 heures du matin, les deux armées furent en présence. L'armée française sur la rive droite, l'armée autrichienne sur la rive gauche du Tagliamento. Les divisions Guilleux, Serrurier, Bernadotte faisaient la gauche et le centre, et la droite était avec le quartier général en avant de Valvassone. Le prince Charles, avec des forces à peu près égales, était rangé de la même manière en face sur la rive gauche. Par cette position, le prince Charles ne couvrait pas la chaussée de la Ponteba. Les débris de la division opposée à Masséna n'étaient plus capables de l'arrêter. Cependant, la Ponteba était la route la plus courte de Vienne et la direction naturelle pour couvrir cette capitale. Cette conduite du prince Charles ne pouvait s'expliquer qu'en supposant qu'il ne connaissait pas encore bien le nouveau terrain sur lequel il devait opérer, lequel n'avait jamais été le théâtre de la guerre dans les temps modernes. Ou que, ne croyant pas le général français assez hardi pour se porter sur Vienne, il n'eut de crainte que pour Trieste, centre des établissements maritimes de l'Autriche. Ou enfin que ces positions n'étant point définitivement prises et que, couvert par le Tagliamento, il espérait gagner quelques jours qui suffiraient à une division de grenadiers déjà arrivée de Klagenfurt pour venir renforcer la division opposée à Masséna. La canonnade s'engagea d'une rive à l'autre. La cavalerie légère fit plusieurs charges sur le gravier du torrent. Le général en chef, voyant l'ennemi trop bien préparé, fit poser les armes à ses soldats et établir des bivouacs. Le général autrichien y fut trompé. Il crut que l'armée française, qui avait marché toute la nuit, prenait position. Il fit un mouvement en arrière et alla reprendre ses bivouacs. Mais 2 heures après, quand tout fut tranquille dans les deux camps, les Français reprirent subitement les armes et Duflot, à la tête de la 27e légère, formant l'avant-garde de Guilleux, et Murat, à la tête de la 15e légère, conduisant l'avant-garde de Bernadotte, soutenus chacun par leur division, chaque brigade formant une ligne et celle-ci appuyée par Serrurier, marchant derrière en réserve, se précipitèrent dans la rivière. L'ennemi avait couru aux armes, mais déjà toutes nos troupes avaient passé dans le plus bel ordre et se trouvaient rangées en bataille sur la rive gauche. La canonnade et la fusillade s'engagèrent de toutes parts. Au premier coup du canon, Masséna exécuta son passage à Saint-Daniele. Il éprouva peu de résistance et s'empara d'Osopo, cette clé de la chaussée de Ponteba que l'ennemi avait fait la faute de négliger. Il l'intercepta désormais à l'armée autrichienne, sépara tout à fait de celle-ci la division qui lui était opposée et la poursuivit jusqu'au pont de Casasola en la jetant toujours sur la Carinthie. Le prince Charles désespéra de la victoire. Après plusieurs heures de combat et différentes charges d'infanterie et de cavalerie, il se mit en retraite, nous laissant du canon et des prisonniers. 5. Plan de retraite du prince Charles. Le prince Charles ne pouvait plus se retirer vers la Ponteba par la chaussée de Saint-Daniel et d'Osopo que Masséna tenait en sa possession. Il prit le parti de regagner cette chaussée à Tarvis avec la plus grande partie de son armée, Parudine, Cividale, Caporetto et la Chiosa autrichienne. Il jeta une de ses divisions sur sa gauche par Palbanova, Gradisca et Laibach pour couvrir la Carniole. Mais Masséna n'était qu'à 2 journées de Tarvis et l'armée autrichienne, par cette nouvelle route, avait 5 ou 6 marches à faire. Le prince Charles compromettait donc son armée, il le sentit, et de sa personne courut à Klagenfurt presser la marche d'une division de grenadiers qui s'y trouvait. Cependant, Masséna avait lui-même perdu 2 jours, mais ayant reçu l'ordre de se porter sans hésitation sur Tarvis, il y rencontra le prince Charles en bataille avec les débris de la division qui, depuis la Piave, fuyait devant lui et une belle division de grenadiers hongrois. Le combat fut vif et opiniâtre de part et d'autre. Chacun sentait l'importance du succès, car si Masséna parvenait à s'emparer du débouché de Tarvis, la partie de l'armée autrichienne que le prince Charles avait engagée dans la vallée de l'Isonzo était perdue. Le prince Charles se prodigua de sa personne et fut plusieurs fois sur le point d'être arrêté par les tirailleurs français. Le général Brune, qui commandait une brigade de la division Masséna, s'y comporta avec la plus grande valeur. Le prince Charles fut rompu. Il avait fait donner jusqu'à ses dernières réserves. Il ne put opérer aucune retraite. Les débris de ses troupes allèrent se rallier à Villach derrière la Drave. Masséna, maître de Tarvis, s'y établit en faisant face aux côtés de Villach et du côté de Goritz, barrant les débouchés de l'Isonzo. 7. Combat de la Gradisca, prise de Laibach et de Trieste. Le lendemain de la bataille du Tagliamento, le quartier général se rendit à Palmanova. C'était une place forte qui appartient aux Vénitiens. Le prince Charles l'avait fait occuper et y avait établi ses magasins, mais jugeant qu'il lui faudrait laisser 5 à 6 000 hommes pour la garder, son artillerie de place n'étant pas encore arrivée, il résolut de l'évacuer. Nous l'armâmes aussitôt et la mîmes à l'abri d'un coup de main. Le lendemain 19, on marcha sur l'Isonzo. Le général Bernadotte se présenta à Gradisca pour passer cette rivière. Il trouva la ville fermée et fut reçu à coups de canon. On voulut parlementer avec le commandant de la place, mais il s'y refusa. Napoléon partit alors avec la division Serrurier, prit le chemin de Montefalcone et marcha jusqu'au lieu où la rive gauche de la rivière cesse de dominer la rive droite. Il lui fallait perdre du temps pour construire un pont. Le colonel Andréossi, directeur des ponts, se jeta le premier dans la rivière pour la sonder. Les colonnes suivirent son exemple, et l'on passa, ayant de l'eau jusqu'à mi-corps, sous la faible fusillade de 2 bataillons de Croates qui furent mis en déroute. Il était 1 heure de l'après-midi. On prit alors sur la gauche, on monta sur les hauteurs qu'on suivit jusque vis-à-vis Gradisca, où l'on arriva à 5 heures du soir. La place se trouva ainsi cernée et dominée. La division Serrurier avait marché avec d'autant plus de rapidité que la fusillade était vive sur la rive droite, où Bernadotte était aux prises. Ce général avait eu l'imprudence de vouloir enlever la place d'assaut. Il avait été repoussé et avait perdu 400 à 500 hommes sans nécessité. Cet excès d'ardeur était justifié par l'envie qu'avaient les troupes de Sambre-et-Meuse de se signaler et par la noble émulation d'arriver à Gradisca avant les anciennes troupes d'Italie. Lorsque le gouverneur de Gradisca vit l'Isonzo passer et les hauteurs couronnées, il capitula et se rendit prisonnier de guerre avec plusieurs régiments et beaucoup de canons. Le quartier général fut porté le lendemain à Goritz. La division Bernadotte fut dirigée sur Laibach. Le général Dugois, avec 1 000 chevaux, prit possession de Trieste. La division Serrurier de Goritz remonta à l'Isonzo pour soutenir le général Guilleux et regagner à Tarvis la chaussée de la Carinthie. Le général Guilleux, du champ de bataille du Tagliamento, s'était dirigé vers Udine et Cividale et avait rencontré Caporetto à la chaussée de l'Isonzo. Il avait eu tout le jour de forts engagements avec le principal corps du prince Charles, qui avait pris la même route pour gagner Tarvis. Il lui avait tué beaucoup de monde et fait beaucoup de prisonniers. Le général autrichien avait laissé une arrière-garde à la Chiusa vénitienne et s'était porté sur Tarvis, espérant que le prince Charles l'occupait encore, mais Masséna y était depuis 2 jours. Il fut attaqué en front par Masséna et en queue par Guilleux. La position même de la Chiusa vénitienne, qui était forte, ne put résister à l'impétueuse 4e de ligne. Elle gravit avec une rapidité inouïe une montagne qui domine la gauche de la Chiusa, et tournant ainsi ce poste important, il ne resta plus d'autre ressource aux ennemis que de poser les armes. Bagages, canons, parcs, drapeaux, tout fut pris. on ne fit que 5 000 prisonniers, 10 000 avaient été tués ou blessés dans différents combats. Depuis le Tagliamento, 10 000 soldats, habitants de la Carniole et de la Croatie, voyant que tout était perdu, se débandèrent dans les gorges et gagnèrent isolément leur village. Le quartier général se rendit successivement à Caporetto, à Tarvis, à Villach, à Klagenfurt. 8. Entrée en Allemagne, passage de la Drave, prise de Klagenfurt, 29 mars. La province de Goritz, qui est la première des États héréditaires de la Maison d'Autriche, confine avec l'Italie. Les habitants y parlent italien. Cette province fut sur le champ organisée. Le vieux château de Goritz fut armé. On composa un gouvernement provisoire des 7 personnes les plus considérables que l'on chargea de l'administration du pays. Toutes les mesures furent prises pour rassurer les habitants et pour alléger le fardeau que leur occasionnait la garnison. Les mêmes mesures furent prises à Trieste pour l'Istrie. Toutes les marchandises anglaises furent confisquées. On répara le vieux château pour servir de refuge à la petite garnison qu'on voulait y laisser. Les habitants étaient dans les dispositions les plus favorables aux Français. Laibach est la capitale de la Carniole. On y organisa un gouvernement provisoire sur les mêmes principes qu'à Goritz et Trieste. Cette ville fut mise en état de défense. Elle avait une enceinte bastionnée d'un très vieux tracé. On abattit les maisons qui se trouvaient sur les remparts. Dans ces pays situés près des Alpes, la saison était encore froide. Les habitants, qui avaient d'abord été effrayés, n'eurent qu'à se louer de l'armée française, laquelle, à son tour, n'eut pas à se plaindre de ses peuples. Les dispositions des habitants du cercle de Villach parurent favorables aux Français. Ils fournirent, avec un grand empressement, tout ce qui était nécessaire à l'armée. Nous étions en Allemagne, les mœurs y étaient différentes, nos soldats eurent beaucoup à se louer de l'esprit d'hospitalité qui caractérise le paysan allemand. La grande quantité de chevaux et de voitures qu'ils se procuraient plus facilement qu'en Italie leur fut d'une grande utilité. On mit en état la ville de Klagenfurt, capitale de la Carinthie, on y organisa aussi un gouvernement provisoire. Cette ville a une enceinte bastionnée mais négligée depuis des siècles et ne servant guère qu'à la police de la ville. Les remparts étaient couverts de maisons, on les abattit et on en fit un point d'appui pour l'armée. Le général Dugois à Trieste confisqua tous les magasins appartenant aux Anglais ou aux Autrichiens. On en trouva de considérables et de toute espèce. On prit également possession des mines d'Idria. On y trouva pour plusieurs millions de vifs argent qu'on évacua immédiatement sur Palmanova. En entrant en Carinthie, on avait publié la proclamation suivante. L'armée française ne vient point dans votre pays pour le conquérir, ni pour porter aucun changement à votre religion, à vos mœurs, à vos coutumes. Elle est l'amie de toutes les nations, et particulièrement des braves peuples de la Germanie. Le directoire exécutif de la République française n'a rien épargné pour terminer les calamités qui désolent le continent. Il s'était décidé à faire le premier pas, et a envoyé le général Clark à Vienne comme plénipotentiaire pour entamer des négociations de paix. Mais la cour de Vienne a refusé de l'entendre. Elle a même déclaré à Vicence et par l'organe de Monsieur de Vincent qu'elle ne reconnaissait pas la République française. Le général Clark a demandé un passeport pour aller lui-même parler à l'empereur, mais les ministres de la cour de Vienne ont craint, avec raison, que la modération des propositions qu'il était chargé de faire ne décidât l'empereur à la paix. Ces ministres, corrompus par l'or de l'Angleterre, trahissent l'Allemagne et leurs princes et n'ont plus de volonté que celle de ces insulaires perfides, l'horreur de l'Europe entière. Habitants de la Carinthie, je le sais, vous détestez autant que nous les Anglais qui seuls gagnent à la guerre actuelle et votre ministère qui leur est vendu. Si nous sommes en guerre depuis 6 ans, c'est contre le vœu des braves Hongrois, des citoyens éclairés de Vienne et des simples et bons habitants de la Carinthie. Eh bien, malgré l'Angleterre et les ministres de la cour de Vienne, soyons amis. La République française a sur vous les droits de conquête, qu'ils disparaissent devant un contrat qui nous lie réciproquement. Vous ne vous mêlerez pas d'une guerre qui n'a pas votre aveu. Vous fournirez les vivres dont nous pourrons avoir besoin. De mon côté, je protégerai votre religion, vos mœurs, vos propriétés. Je ne tirerai de vous aucune contribution. La guerre n'est-elle pas par elle-même assez horrible? Ne souffrez-vous pas déjà trop, vous, innocentes victimes, des sottises des autres? Toutes les impositions que vous avez coutume de payer à l'empereur serviront à indemniser les dégâts considérables de la marche d'une armée et à payer les vivres que vous nous aurez fournis. 9. Affaire du Tyrol. Immédiatement après la bataille du Tagliamento, le général français expédia l'ordre au général Joubert d'attaquer l'armée qui lui était opposée, de s'emparer de tout le Tyrol italien, d'exécuter hardiment la marche qu'il lui avait prescrite et de pénétrer en Carinthie par le Puterstal. Le général Joubert entra en opération le 26 mars, passa le Lavisio, battit l'ennemi, lui fit plusieurs milliers de prisonniers, passa l'Adige, le battit à Tramin, s'empara de Bolzano, livra un nouveau combat à Klausen, força les gorges d'Innsbruck le 28, rejeta les troupes italiennes au-delà du Brenner et se dirigea sur la Carinthie après avoir fait éprouver beaucoup de pertes à l'ennemi et lui avoir pris 7 à 8 000 hommes. Le général Joubert montra du talent, de la constance et de l'activité dans la direction de cette opération difficile. Les généraux Delmas, Baraguédillier et Dumas s'y distinguèrent. Les troupes montrèrent la plus grande intrépidité. 10. Résumé. Ainsi, en 17 jours, les deux armées du prince Charles avaient été défaites. L'ennemi, rejeté au-delà du Brenner, avait évacué le Tyrol après avoir fait des pertes très considérables. L'Autriche avait perdu Palmanova, place très forte, et Trieste et Fiume, seul port de la monarchie autrichienne. La province de Goritz, l'Istrie, la Carniole, la Carinthie étaient conquises. La Save, la Drave, les Alpes noriques étaient passées. L'armée n'était plus qu'à 60 lieues de Vienne. Elle était fondée à espérer d'y arriver avant la fin de mai. L'armée autrichienne, démoralisée et ruinée, ne pouvait plus lutter contre l'armée française, qui n'avait éprouvé aucune perte sensible et chez qui le moral et le sentiment de sa supériorité étaient à un degré inexprimable. Affaire de Venise. 1. Description de Venise. La République de Venise, au moment de la Révolution française, était l'état le plus considérable de l'Italie. La population du royaume de Naples lui était supérieure, mais Venise l'emportait de beaucoup par la force de son gouvernement et les avantages de sa topographie. Le gouvernement siégeait dans une ville forte, inattaquable par terre et par mer. Indépendamment de son armée de terre, il avait une escadre qui dominait l'Adriatique et le faisait respecter de tout le Levant. Cette ville fut fondée au 5e siècle par les habitants du Frioul et du Padouan qui se réfugièrent dans les lagunes pour se mettre à l'abri de l'oppression des barbares. Leurs descendants se maintinrent toujours indépendants des dominateurs de l'Italie. Cette belle péninsule, en proie aux révolutions, a changé souvent de maître. Venise seule, toujours indépendante et libre, n'a jamais reconnu de pouvoir étranger. Venise est la ville et le port de commerce les mieux situés de toute l'Italie. Toutes les marchandises de Constantinople et du Levant y arrivent directement par le chemin le plus court, par l'Adriatique. De là, elles se répandent jusqu'à Turin par le Pô et dans toute l'Allemagne, en remontant l'Adige, jusque auprès de Bautzen, où elles trouvent des chaussées sur Augsbourg et Nuremberg. Venise est située près l'embouchure du Pô et de l'Adige. Elle est le port de ces deux rivières. D'un autre côté, elle communique par des canaux avec Bologne, de sorte que toutes les productions de la grande plaine d'Italie s'écoulent par Venise. Cette ville est le port de mer le plus près d'Augsbourg et de Munich. La nature a fait Venise l'entrepôt d'échange du Levant, de l'Italie et de l'Allemagne méridionale. Avant la découverte du Cap de Bonne-Espérance, cette ville faisait le commerce des Indes par Alexandrie et la mer Rouge. Aussi s'opposa-t-elle vivement aux opérations des Portugais. Elle équipa une flotte considérable dans la mer Rouge. Elle établit un arsenal, des aiguades, des magasins près de Suez. On en voit encore les débris aux fontaines de Moïse. Les Portugais bâtirent ces flottes construites à grands frais et les Vénitiens vaincus durent renoncer à les arrêter dans leur succès de découverte et de commerce. Les lagunes qui sont formées par les eaux de la Piave et de la Brenta communiquent avec la mer par trois passages. La souveraineté de Venise résidait dans l'aristocratie de quelques centaines de familles inscrites dans le livre d'or. Leurs sujets se composaient d'une population de 3 à 4 millions d'individus répandus autour de Venise dans les pays les plus riches et les plus fertiles du monde. à savoir le Bergamasque, le Brescian, le Vicentin, le Véronais, le Padouan, la Polésine, le Trévisan, le Bassanais, le Cadorin, le Bellunais et le Frioul, dans la terre ferme d'Italie, l'Istrie et la Dalmatie sur les rives de la mer Adriatique et les îles Ioniennes répandues dans son entrée. Ces provinces de terre ferme s'appuient au nord sur la crête supérieure des Alpes juliennes et des Alpes du Tyrol, depuis la source de l'Adda jusqu'à celle de l'Isonzo. Cette chaîne de montagnes, presque partout impraticable, les sépare de l'Allemagne, avec laquelle elles n'ont de communication que par les trois chaussées qui longent l'Adige, le Tagliamento et l'Isonzo. Les vallées de l'Adige, de la Brenta, de la Piave, du Tagliamento, de l'Isonzo appartenaient dans leur entier à cette république. Sa marine consistait dans une douzaine de vaisseaux, autant de frégates et de petits bâtiments qui suffisaient pour se faire respecter des barbaresques, dominer l'Adriatique et défendre ses lagunes. Venise pouvait mettre 50 000 hommes sur pied, composés de régiments italiens recrutés dans la terre ferme ou d'esclavons, peuple brave et de tout temps dévoué à la République. Elle pouvait lever de ceux-ci jusqu'à 10 000 ou 15 000 hommes de pied et 4 000 à 5 000 à cheval. Leurs chevaux sont petits mais d'un bon service. Les esclavons étaient les troupes de confiance du Sénat. Ils avaient le très grand avantage d'être étrangers à la langue et aux mœurs de la terre ferme. La ville de Venise était fort riche, et quoique son commerce fût déchu, cependant il se maintenait encore. Les seules familles du Livre d'Or avaient part à l'administration. Elles remplissaient le Sénat, les conseils, les quaranties et autres magistratures, ce qui excluait les nobles de la terre ferme. Ceux-ci comptaient parmi eux un grand nombre de familles riches, illustres et puissantes, qui, sujettes et privées de tout pouvoir, demeuraient sans considération et jalousaient beaucoup la noblesse souveraine de Venise. Ces nobles de la terre ferme descendaient en partie des anciens condottieri, des anciens podestas ou autres personnes qui, jadis, avaient joué un grand rôle dans les républiques de leur ville et dont les ancêtres, après s'être opposés longtemps aux entreprises de Venise, avaient été victimes de la politique de cette république. Aussi, à la jalousie et à la haine que leur inspirait la nature du gouvernement, se joignaient encore les ressentiments historiques soigneusement perpétués. Ces provinces de terre ferme étaient généralement mécontentes et fort peu attachées à leur gouvernement. La plus grande partie du peuple faisait cause commune avec la noblesse de terre ferme. Une portion, cependant, s'attachait aux nobles vénitiens qui avaient des propriétés et des établissements dans presque toutes les provinces. Leurs prêtres étaient sans crédit et sans considération dans la République qui, de très bonne heure, s'était affranchie de toute influence de la part du pape. Le chef de la maison d'Autriche, qui possédait Milan et Mantoue en Italie et une portion de l'Istrie sur l'Adriatique, avait beaucoup d'intérêts mêlés avec Venise, et celle-ci, qui avait à le redouter constamment, s'était toujours maintenue contre lui par l'équilibre de l'Europe et spécialement par la protection de la France. Pour aller du Tyrol à Mantoue par la Lombardie, il faut traverser le territoire vénitien depuis Rivoli jusqu'à Mantoue, ce qui forme environ 2 jours de marche. Des traités y assuraient à l'Autriche une route militaire, mais les troupes devaient la traverser désarmées et par petits détachements. Aucune autre route militaire n'était accordée au travers du pays depuis l'Adige jusqu'à l'Isonzo. Dans les guerres précédentes en Italie, l'Autriche était obligée de faire les communications de son armée par mer, de Trieste au Pô, les convois ne pouvant traverser le Frioul et les états de terre ferme, hormis la route de Rivoli à Mantoue. C'est ce qui donna lieu à la croisière du chevalier de Forbin sous Louis XIV, qui interceptait les communications par mer de Trieste au Pô. Lorsque la première coalition se forma contre la France, les puissances engagèrent cette république à y prendre part. Il ne paraît pas qu'il s'éleva à ce sujet des discussions sérieuses dans le Conseil. Tous y furent du même avis. Ils étaient tellement éloignés du théâtre qu'ils se regardèrent comme étrangers à ses affaires et voulurent demeurer neutres. Lorsque le comte de Lille choisit Vérone pour son séjour, Venise ne l'accorda qu'avec l'assentiment du comité de salut public qui préférait savoir le prétendant à Vérone plutôt qu'en tout autre lieu. Quand les troupes françaises marchèrent en 1794 vers Oneille et que leur camp s'établit à Savone, on crut l'Italie menacée d'invasion, et plusieurs puissances se réunirent en congrès à Milan. Venise refusa d'y paraître, non qu'elle ne condamnât les principes français, mais elle redoutait de se livrer à la merci de l'Autriche. Le danger, d'ailleurs, lui paraissait très éloigné. 2. Opinion dans le Sénat. La première est celle des amis de l'Autriche, la deuxième des vieux sénateurs, la troisième des amis de la France. Mais quand Napoléon parvint à Milan et que Beaulieu se réfugia, épouvanté, derrière le Minchot, qu'il entra dans Pescare et y assit sa droite dans l'espoir de défendre le Minchot, alors l'incertitude et les alarmes furent grandes dans la République. L'espace immense qui avait séparé jusque-là la lutte de la démocratie et de l'aristocratie était franchi. La guerre des principes et celle des canons se trouvaient au sein de l'État. De vives et orageuses discussions agitèrent le Sénat qui se partagea en trois opinions. Pezzaro et les plus jeunes sénateurs, partisans de l'Autriche, voulaient que l'on se déclarât contre la France. Ils voulaient la neutralité, mais la neutralité armée. Ils voulaient qu'on jetât de fortes garnisons dans Pescare, Brescia, Bergame, dans Portelegnano et Vérone, qu'on déclarât ces places places de guerre. Ils voulaient qu'on levât 50 000 hommes, qu'on armât avec activité des lagunes, qu'on y plaçât des chaloupes canonnières, qu'on équipât une escadre pour tenir l'Adriatique, et que, dans cette attitude formidable, on déclarât la guerre au premier qui violerait désormais le territoire. Ceux de cette opinion disaient que si la dernière heure était arrivée, il valait mieux périr les armes à la main que d'expirer honteusement, qu'en défendant le territoire, on empêcherait les idées françaises de s'inoculer dans les principales villes, qu'on obtiendrait des deux parties ennemies d'autant plus de ménagements qu'on se serait mis plus en mesure d'en exiger, que si, au contraire, on ouvrait paisiblement les portes et que l'on laissa entrer les Français dans les grandes villes de terre ferme, alors la guerre des deux grandes puissances s'établissait sur le territoire de la République et, dès ce moment, la souveraineté lui échappait. Que le premier devoir du prince est de protéger ses sujets. Or, le seront-ils, pourront-ils l'être, si on laissait établir le théâtre de la guerre sur leur territoire? Les campagnes seront ravagées, les villes brûlées successivement par les deux armées. Alors les malheureux peuples perdront toute estime et tout respect pour l'autorité qui les abandonne. Les germes de mécontentement et de jalousie qui existent déjà fermenteront avec violence. La République expirera sans mériter même les regrets de l'histoire. L'opinion à laquelle se ralliaient tous les vieux sénateurs était de ne prendre aucun parti décisif. Ils avouaient que tous les dangers étaient vrais, qu'on avait à craindre tout à la fois et l'ambition de l'Autriche et les principes de la France, mais que ces maux étaient heureusement passagers. Qu'avec du ménagement et de la patience, on éviterait les inconvénients qu'on craignait. Que les Français étaient de naturel conciliants, faciles à caresser, qu'avec de bons procédés et des gouverneurs habiles, tenant un grand état de maison, ayant quelques fonds à leur disposition pour les dépenses secrètes, on s'emparerait de l'esprit de leur chef, on se concilierait leur opinion. Que déclarer désormais une neutralité armée, c'était déclarer la guerre à la France. Qu'on ne pouvait leur fermer des portes qui avaient été ouvertes à leurs ennemis sans leur donner un juste sujet de guerre. Or, pouvait-on songer sérieusement à leur résister avec quelques milliers d'esclavons? La République ne devait pas compter sur le Bressian, ni sur le Bergamasque, qui s'insurgerait tout d'abord, et que, si l'on venait à combattre, les Français trouveraient aussitôt dans leurs partisans de la terre ferme un équivalent au lever qu'on pourrait faire venir contre eux de la Dalmatie. Que les maux étaient grands, sans doute, la crise dangereuse, mais qu'on n'était pourtant pas au point où le peignait ses têtes exaltées. La République avait traversé bien d'autres orages, il fallait gagner du temps. C'est avec ce sage principe que leurs ancêtres s'étaient maintenus. Heureusement, la Providence avait fixé leur capitale dans une ville imprenable. Tous les efforts de la République ne devaient avoir pour but que de renforcer cette capitale en opposant à tout le reste la patience, la modération et le temps. Une troisième opinion se manifesta dans le Sénat, on l'attribua au provéditeur Battaglia. La République, dit-il, est vraiment en danger de son existence. D'un côté, les principes français subversifs de notre Constitution, de l'autre, l'Autriche qui en veut à notre indépendance. Entre ces deux mots inévitables, sachons choisir le moindre. Le pire à mes yeux est l'esclavage de l'Autriche. Augmentons le livre d'or, inscrivons-y ceux de la noblesse de la terre ferme qui le méritent. Dès ce moment, plus de division, plus d'opposition parmi nous. Armons nos places, équipons nos flottes, levons 50 000 hommes et courons au-devant du général français lui offrir une alliance offensive et défensive. Nous serons peut-être par là conduits à quelques changements dans notre constitution, mais nous sauverons notre indépendance et notre liberté. Est-ce donc la première fois qu'on augmente le livre d'or? On a parlé d'une neutralité armée entre les deux parties. Il y a 2 ans, au commencement de l'orage, ce parti eût été meilleur. Il était juste parce qu'il était égal pour les deux parties belligérantes. Il eût été possible parce qu'on eût eu le temps de s'y préparer. Si vous le proclamiez aujourd'hui, ce serait déclarer la guerre à la France. Vous ne pouvez pas interdire aux Français ce que vous avez permis ou toléré de la part des Autrichiens. Peut-on vous proposer de vous mettre en guerre contre l'armée française, laquelle est victorieuse, lorsqu'elle sera dans 8 jours à vos portes, lorsque encore vous n'aurez aucun traité avec l'Autriche? Et en eussiez-vous, celle-ci ne peut vous être d'aucun secours avant 2 mois. Or, que deviendrait la République dans 2 mois contre un ennemi aussi entreprenant et aussi actif? Le second parti qu'on nous propose, celui de la patience et du temps, est aussi mauvais que le premier. Les circonstances politiques ne sont plus aujourd'hui les mêmes, les temps sont bien changés. La crise où nous sommes ne ressemble à aucune de celles dont a triomphé la vieille existence de la République. Nous ne saurions prendre conseil de nos ancêtres. Les principes français sont dans toutes les têtes, ils se reproduisent partout. C'est un torrent débordé qu'on espérerait en vain arrêter par les digues de la patience, de la modération et de la souplesse. Le parti français existe dans toutes les provinces. La mesure que je vous propose peut seule nous sauver. Elle est simple, noble, généreuse. Je vous le répète, allons au-devant du général français, concluons avec lui une alliance offensive et défensive. L'Autriche se trouvera trop faible pour que nous craignions de devenir sa proie. Nous pouvons contribuer efficacement au succès des Français, nous pouvons les renforcer de 25 000 hommes en gardant ce qui nous est nécessaire pour Venise, et de plus favoriser de notre influence sur les esprits des avantages de nos localités. Tout sera facile parce que tous les partis qui divisent l'État marcheront ensemble et dans une même direction. Notre indépendance sera assurée. Nous sauvons les grandes bases de notre constitution. Renforcés par nous, les Français prendront promptement Mantoue, porteront la guerre hors de nos limites. Que si, malgré notre assistance, les Français étaient battus, obligés de repasser l'Adda, nous nous défendrions contre l'Autriche. L'Autriche n'a aucun parti sur notre territoire. À Brescia, Bergame, il n'est personne qui ne prie volontairement les armes pour n'être point sujet autrichien. Alors le poids de la France, l'intérêt de l'Angleterre, de la Suisse, nous sauverait. Cette opinion saisit toutes les passions, frappa tous les bons esprits, mais ne captiva le suffrage que de peu de sénateurs. Comment affaiblir ses privilèges? L'amour et l'intérêt de famille l'emportèrent sur ceux de la patrie. Cette résolution était trop grande pour des gens dégénérés, incapables de grandes pensées. Aussi ce ne fut ni l'invasion de Napoléon en Italie, ni les principes français qui perdirent Venise, mais la conduite de son gouvernement et l'abasourdissement de ceux qui le composaient. On prit donc, ainsi qu'il arrive dans une grande circonstance, le parti le plus mauvais. On s'en rapporta aux événements et à la Providence. 3. Conduite des provéditeurs Monesigo Foscarelli Battaglia. Le provéditeur Mocenigo, suivant ses instructions, reçut donc le général en chef à Brescia magnifiquement. Ce furent des voitures somptueuses, de grandes fêtes, des repas splendides. Jamais la France n'avait eu de meilleurs amis que les Vénitiens. Chaque noble voulait devenir l'ami particulier du général français. D'un autre côté, ces fêtes, où était invitée toute la noblesse du pays, facilitait-elle les liaisons des officiers français avec les principales familles. Aucun ne put se faire scrupule de recevoir chez lui des officiers et des généraux dont on avait fait la connaissance chez le provéditeur. Le provéditeur Foscarelli fit de même à Vérone. Il donna pareillement des fêtes, mais étant d'un caractère peu souple, il ne put dissimuler les sentiments secrets de son cœur. C'était un des hommes du Sénat les plus opposés aux Français. Il ne put porter aucune plainte contre l'entrée des Français à Pescare, parce qu'ils y succédaient à Beaulieu. Mais quand on lui demanda les clés de l'arsenal pour armer les remparts, quand on se mit en devoir d'armer les galères, Foscarelli se plaignit que le général français violait la neutralité de la République. Beaulieu, il est vrai, était entré dans les fortifications de Pescare. De ses remparts, il avait tiré du canon sur les Français, mais c'était avec sa propre artillerie. Lorsque le général français arriva à Pescare, Foscarelli se rendit auprès de lui pour le détourner de venir à Vérone, comme il l'avait annoncé, le menaçant de fermer les portes et de les défendre au canon. « Il est trop tard, » dit le général français, tirant sa montre. « Mes troupes y sont entrées. Je suis obligé d'établir une défense sur la Dige pendant le siège de Mantoue. Ce n'est point avec 1500 esclavons que vous pourriez me garantir de vous opposer au passage de l'armée autrichienne. Si vous le pouviez, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? La neutralité consiste à avoir même poids et même mesure pour chacun. » Si vous êtes ami des Français, vous ne pouvez vous empêcher de leur accorder ce que vous avez accordé, ou du moins toléré, à leur ennemi. Quand on exigea les clés des magasins et de la poudrière pour armer Vérone, quand, pour tracer une demi-lune en avant de Vérone, il fallut démolir quelques bureaux d'octroi, Foscarelli, tout hors de lui, demanda une audience au général français et parla longtemps sur la violation de la souveraineté de la République. Ces diverses discussions envoyées au Sénat lui firent comprendre que Foscarelli n'avait pas précisément les qualités propres aux circonstances. Pensant que Battalia serait plus agréable à Napoléon, on le lui envoya comme provéditeur général de toutes les provinces au-delà de la Dige. C'était un homme souple, instruit, de manière douce, sincèrement attaché à la République, très porté pour la France d'autrefois, et préférant même la France républicaine à l'Autriche. Peu à peu, le théâtre de la guerre s'étendit sur la totalité des possessions vénitiennes. Mais ce furent toujours les Autrichiens qui entamèrent de nouveaux territoires. Beaulieu occupa le premier Peschiera, Vérone, Wurmser se jeta le premier dans Bassano et traversa le premier Vicence et Padoue. Alvinzi, plus tard, et l'archiduc Charles occupèrent le Frioul, Palmanova et jusqu'aux limites les plus orientales de la République. 4. Factions à Brescia, Bergame et Vérone. Cependant, une grande agitation prévalait dans toute la terre ferme. Le mécontentement se propageait avec rapidité. Aux causes naturelles de la constitution de Venise se joignait aujourd'hui la fréquentation des Français, l'attrait de leurs opinions nouvelles et la sorte d'admiration que répandirent les défaites de Wurmser et les succès obtenus sur Alvinzi. On regardait généralement l'Italie comme perdue pour l'Autriche et l'on considérait que son expulsion devait entraîner la chute de l'aristocratie. Le général français chercha constamment à modérer ce mouvement. Lorsqu'il revint de Tolentino, tout entier à son projet de marcher sur Vienne, il porta toute son attention à prévenir les troubles qui pourraient avoir lieu durant son absence d'Italie. Les États vénitiens lui donnaient de l'embarras. L'irritation avait toujours été croissante. Brescia et Bergame avaient à peu près opéré leur révolution. Les Fenaroli, les Martinengue, les Lecchi, les Alexandri étaient à la tête de ce mouvement. Ils composaient les premières, les plus riches familles. Ces deux villes, sous le nom de municipalités, exerçaient une espèce d'indépendance. Elles avaient les caisses, disposaient des revenus et nommaient aux emplois. Si le lion de Saint-Mars y voyait encore, c'était plutôt une déférence pour les volontés du général français qu'un acte de soumission à la souveraineté de Venise. C'était partout des déclamations amères et violentes contre les nobles vénitiens, soit dans les conversations, soit par la voix de la presse. Partout on relevait avec aigreur l'injustice de leur souveraineté. « Où est le droit de Venise, disait-on, de dominer sur nos villes ? Sommes-nous moins braves, moins éclairés, moins riches ? Que diverses provinces reconnaissent un monarque qui séjourne dans la capitale, cela se conçoit, parce que ces provinces et cette capitale sont égales à ses yeux, sont toutes sujettes et toutes favorisées des mêmes droits. mais ici que le noble Vénitien s'arroge exclusivement la souveraineté sur nous, qui le valons à tous égards, c'est une monstruosité insupportable et révoltante. D'un autre côté, l'orgueil des sénateurs était vivement offensé de voir des sujets qui, depuis des siècles, étaient soumis à leurs ancêtres, oublier l'immense distance qui les séparait. Ils n'oubliaient rien pour les faire rentrer dans le devoir. Ils augmentaient les levées d'esclavons, les menaçaient des succès des Autrichiens, les appelaient « jacobins », faisaient courir les bruits les plus alarmants contre les Français. Tout annonçait un choc violent. Battaglia, dans ses dépêches au Sénat, adoucissait les outrages des Bressians et diminuait aux yeux de ceux-ci la colère et les emportements du Sénat. Toujours conciliant, il ne cessait, dans ses nombreux rapports avec le général français, de s'intéresser à la République. Cependant, il était trop éclairé pour se dissimuler qu'il était impossible d'ajuster à l'amiable des passions si violemment contrariées. 5. Difficultés attachées aux affaires de Venise. Le général français médita longtemps sur l'état des choses. Il lui semblait impossible de laisser ainsi, sur ses derrières, 3 millions d'individus livrés au désordre et à l'anarchie. Il n'avait pas plus d'influence sur les amis de la France que sur le Sénat même. Il pouvait bien les empêcher de se porter à de telles démarches, mais il ne pouvait les empêcher de parler, d'écrire, d'irriter personnellement le Sénat dans une foule de détails d'administration qui lui étaient étrangers. Il fallait pourtant prendre un parti. Désarmer ceux de Brescia et de Bergame, se déclarer tout à fait pour le Sénat en proscrivant les novateurs, en remplir les cachots de Venise, c'eût été s'aliéner le parti populaire sans se concilier l'affection du Sénat. Et si cette atroce politique eût pu entrer dans l'esprit du général français, elle eût eu pour résultat infaillible, comme sous Louis XII, de réunir à la fin toute la population contre lui. Porter le Sénat à s'allier avec la France en modifiant sa constitution, en se rendant agréable au peuple de la terre ferme, c'était sans doute le meilleur parti. Aussi le général français avait-il tout tenté pour l'y amener. À chaque succès qu'il obtenait, il en renouvelait la proposition, mais il avait toujours échoué. Il s'offrait un troisième parti, de marcher sur Venise, de saisir cette capitale et d'y opérer par la force le changement politique nécessaire en modifiant ses lois et procurant la supériorité aux partisans de la France. C'était la vraie manière de couper le nœud, ne pouvant le dénouer. Mais quand, après avoir arrêté ce projet, il voulait déterminer le moment de l'exécution, il lui devenait impossible de le concilier avec les circonstances et son grand projet survienne. Il ne pouvait marcher sur Venise tant que le prince Charles serait à Piave. Il fallait donc commencer par le battre et le chasser d'Italie. Mais si l'on obtenait ce grand avantage, convenait-il alors de perdre les fruits de la victoire? Fallait-il retarder le passage des montagnes pour ramener la guerre autour de Venise? C'était donner au prince Charles le temps de se reconnaître, de se renforcer, de créer de nouveaux obstacles. On ne pouvait attaquer Venise sans avoir battu le prince Charles qui la couvrait. On ne le devait pas après l'avoir battu, parce qu'alors le temps était trop précieux et qu'il convenait de le poursuivre jusqu'à Vienne. Venise était d'une grande force. Elle était défendue par ses lagunes, une grande quantité de bâtiments armés. 15 000 esclavons formaient sa garnison. Maîtresse de l'Adriatique, elle pouvait recevoir encore de nouvelles troupes. Enfin, elle recelait dans son sein la force morale de toutes ces familles souveraines qui allaient combattre pour leur existence politique. Qui pouvait évaluer le temps que nos troupes seraient retenues à cette entreprise? Et pour peu que la lutte se prolongeât, de quel effet ne pouvait pas être une telle résistance sur le reste de l'Italie? Cette nouvelle guerre ne manquait pas d'éprouver de grandes contradictions à Paris. Venise y avait un ministre très actif, les conseils y étaient en opposition avec le directoire. Le directoire lui-même était très divisé. Si Napoléon consultait le directoire sur l'entreprise de Venise, celui-ci ne répondrait pas ou éviterait la question. Si, comme il l'avait fait jusque-là, il agissait de son chef sans demander l'autorisation, à moins d'un succès immédiat, on lui reprocherait d'avoir violé tous les principes. Il n'avait le droit, comme général en chef, que de repousser la force par la force. Une guerre nouvelle contre une puissance indépendante ne pouvait être faite sans l'ordre du gouvernement, c'eût été se rendre coupable de l'usurpation des droits de la souveraineté. On ne put donc prendre le parti décisif de déclarer la guerre à Venise. Premièrement, parce qu'on n'en avait pas le droit. Deuxièmement, parce que cela n'était pas conciliable avec le projet de porter la guerre en Allemagne sans délai. L'épisode de Venise pouvait devenir une affaire principale qui eût fait manquer la grande affaire de Vienne. Il fallut donc se résoudre, vis-à-vis des Vénitiens, à de simples précautions militaires. On était sûr de Brescia et de Bergame, et de tous les pays sur la rive droite de l'Adige. Nos troupes occupaient les citadelles de ces deux villes. Vérone, bien moins disposée, fut contenue non seulement par ses châteaux bien approvisionnés, mais encore par le vieux palais sur la rive droite qu'on fit armer, qui devint une véritable citadelle au milieu de la ville et rendit maître absolu d'un des trois ponts de pierre. Toutes les troupes qui avaient été employées à l'expédition contre le pape furent destinées à former une réserve qui se tiendrait sur Vérone et se porterait partout où il serait nécessaire. 6. Conférence avec Pezzaro. Napoléon, au moment d'ouvrir la nouvelle campagne, toujours plus inquiet de la direction des affaires de Venise, ayant le pressentiment de quelques machinations secrètes de la part du Sénat, résolut de tenter un nouvel effort de négociation et voulut avoir un entretien avec Pezzaro, le chef du parti autrichien, qui, dans ce moment, conduisait toutes les affaires de la République. Pezzaro peignit l'état critique de la République, le mauvais esprit des peuples, les plaintes légitimes contre Brescia et Bergame et leurs partisans dans les autres provinces de la terre ferme. Il dit que ces circonstances difficiles exigeaient des mesures fortes de la part du Sénat et des armements extraordinaires qui ne devaient causer aucun ombrage au général français. Que le Sénat était dans l'obligation de faire des arrestations à Venise et dans la terre ferme, et qu'il serait injuste de qualifier de rigueur contre les partisans de la France, ce qui n'était de la part du Sénat que la juste punition des citoyens turbulents qui voulaient renverser les lois de leur pays. Le général français ne disconvint pas de la situation critique de Venise, et sans perdre son temps à en discuter les causes, il aborda franchement les faits. « Vous voulez arrêter ce que vous appelez vos ennemis, ce que nous appelons nos amis. Vous mettez en place des personnes connues par la haine qu'elles nous portent et leur liaison avec les Autrichiens. Vos troupes s'augmentent, elles marchent, disent-elles, contre les Jacobins. Que vous reste-t-il à faire pour que nous soyons en guerre ? Une guerre contre la France ferait votre entière et prompte ruine. » Vainement vous compteriez sur le prince Charles, votre calcul est faux, je le battrai et le chasserai de l'Italie avant 8 jours. Il est un moyen de sortir de la situation pénible où nous sommes. Je veux terminer vos angoisses, je vous offre l'alliance de la République. Je vous garantirai tous vos états de terre ferme, même votre autorité dans Brescia et dans Bergame. Vous déclarerez la guerre à l'Autriche et vous me donnerez 10 000 hommes pour contingent. Je crois convenable de mettre dans le livre d'or les principales familles de la terre ferme, mais je n'en fais pas une condition sine qua non. Retournez à Venise, faites délibérer le Sénat et venez signer un traité qui seul peut sauver votre patrie et nous mettre d'accord. » Pezzaro s'était fort avancé, il avait besoin de gagner du temps. Il avoua la sagesse du projet et partit pour Venise en promettant de venir avant 15 jours. Pendant cet intervalle, il se passa bien des événements. Le 13 mars, l'armée française passa la Piave. Aussitôt que Pezzaro en fut instruit, il expédia à Bergame l'ordre de faire arrêter et traduire, devant le conseil des 10, 14 des principaux citoyens de cette ville. C'étaient les chefs du parti patriotique. Mais ceux-ci, prévenus par un commis de Venise qui était de leur parti, interceptèrent le courrier porteur de cet ordre, arrêtèrent le provéditeur lui-même et proclamèrent la liberté de Bergame le 14 mars. Ils envoyèrent au général français, pour l'en prévenir, des députés qui ne purent l'atteindre que sur le champ de bataille du Tagliamento. Cet événement le contraria beaucoup, mais il était sans remède. Les Bergamasques s'étaient déjà fédérés avec Milan, capitale de la République lombarde, et Bologne, capitale de la République transpadane. La même révolution s'opéra peu de jours après à Salò et Brescia. Les 2 000 esclavons qui étaient dans cette dernière ville furent désarmés. Le provéditeur Battaglia fut respecté, mais renvoyé à Vérone. Pesaro revint, comme il l'avait promis. Il rejoignit le général français à Palmanova. Le prince Charles avait été battu sur le Tagliamento, Palmanova avait ouvert ses portes, et les drapeaux français flottaient à Tarvis, au-delà de l'Isonzo, sur le sommet des Alpes noriques. « Ai-je tenu parole ?» dit Napoléon. « Le territoire vénitien est couvert de mes troupes. Les Allemands fuient devant moi. Je serai sous peu de jours en Allemagne. Que veut votre République ? Je lui ai offert l'alliance de la France. L'accepte-t-elle » ?»« Non, » dit Pesaro. « Venise se réjouit de vos triomphes. Elle sait bien ne pouvoir exister que par la France, mais fidèle à son antique et sage politique, elle veut rester neutre. D'ailleurs, à quoi pourrions-nous être bons ? Sous Louis XII et François Ier, nous pouvions être de quelque poids sur le champ de bataille, mais aujourd'hui, avec des armées si immenses, avec des populations entières sous les armes, quel cas pourriez-vous faire de nos secours ? Mais continuez-vous vos armements ? Il le faut bien, dit Pesaro. Brescia et Bergame ont levé l'étendard de la rébellion. Nos fidèles sujets sont menacés à Créma, à Chiari, à Vérone. Venise même est agitée. Eh bien, lui répondit le général français, tout cela n'est-il pas une raison de plus pour accepter les propositions que je vous ai faites ? Elles termineront tout. Mais votre destinée vous entraîne. Toutefois, songez-y, le moment est plus décisif pour votre République que vous ne pensez. Je laisse en Italie plus de force qu'il n'en faudrait pour vous soumettre. Je quitte l'Italie pour m'enfoncer en Allemagne. S'il y avait sur mes derrières des troubles par votre faute, si mes soldats étaient insultés par l'impulsion que vous donnez aux vôtres contre les Jacobins, ce qui n'eût pas été un crime quand j'étais en Italie en serait un irrémissible sitôt que je serais en Allemagne. Votre République cesserait d'exister. Vous auriez prononcé sa sentence. Si j'ai à me plaindre de vous, vainqueur ou vaincu, je ferai la paix à vos dépens. Pesaro, comme on le croit bien, s'étendit en vœux, en justification, en protestation, et on se sépara. Les propositions offertes par le général français avaient été vivement discutées dans le Sénat et rejetées. À quoi aboutirait une telle alliance, avait-on dit, à perdre nos 10 000 esclavons ? Au premier combat, au premier triomphe, ils ne seraient plus à nous. Napoléon leur donnerait des honneurs, des récompenses, il leur enlèverait infailliblement par cette magie qui toujours enchaîne le soldat au général qui le fait vaincre. Ils arrêtèrent donc l'alliance de l'Autriche et mandèrent à l'envoyé qu'ils avaient à Vienne de conclure, malgré la défaite du prince Charles. C'est ainsi que cette antique république courait aveuglément à sa perte et était la dupe de la politique maîtresse et machiavélique de Vienne. 7. Insurrection de Venise, massacre des Français à Vérone. Laudon, nommé commandant de la levée tyrolienne, qui s'était retiré à Innsbruck devant Joubert, ne le vit pas plutôt engagé dans le Puchtertal qu'il rentra dans le Tyrol pour continuer d'organiser son insurrection et suivre le petit corps d'observation français qui se retirait sur les débouchés de l'Italie pour protéger Vérone. Laudon avait peu de force. Presque tout ce qui avait été opposé à Joubert avait eu l'ordre de filer en toute hâte pour rejoindre le prince Charles. Ce mouvement dans le Tyrol était donc de peu de conséquences. Il avait été calculé par Napoléon, qui avait préféré avant tout avoir la totalité de ses troupes sous la main. Laudon, avec l'activité et l'adresse qui caractérisent un partisan, inonda le pays de proclamations et de nouvelles. Il répandait que les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse, ayant voulu passer le Rhin, avaient été écrasées, que le Tyrol avait été le tombeau des Français, que l'armée de Joubert avait péri. Il exhortait les Vénitiens et toute l'Italie à une révolte générale et à se lever en masse sur les derrières des Français. Dans le même moment, les mêmes nouvelles répandues par les amis de Pesaro parvenaient de Venise. Elles arrivaient donc par deux sources différentes et durent s'accréditer facilement dans tous les États vénitiens, d'autant plus que l'année dernière, les armées du Rhin avaient eu un pareil échec. À Brescia, à Bergame, où les partisans de la liberté étaient les plus forts, ils prirent aussitôt les armes, se concertèrent avec les gouverneurs français et envoyèrent des députations à Milan, à Modène, à Bologne, afin de se soutenir mutuellement. À Vérone, au contraire, où le parti du Sénat dominait et que Pesaro avait fait le point d'appui de son parti, Le peuple, les militaires, les magistrats éclatèrent contre les Français. Nombre de ceux-ci furent arrêtés dans leurs maisons et 400 de nos malades furent égorgés dans les hôpitaux. Les Français durent s'enfermer dans les forts extérieurs de Vérone et dans celui qui avait été pratiqué dans l'intérieur au débouché du troisième pont. Kilmaine, qui ne voulut pas se laisser couper de Victor venant de Rome, sortit de la ville avec ce qui n'était pas nécessaire à la garde des châteaux et se retira sur le Mincio. Ainsi, le lion de Saint-Mars se relevait triomphant et terrible, car au lieu de réprimer ce dangereux mouvement, le parti de Pesaro s'y livra tout entier, soit qu'il crût réellement à la perte de Joubert, soit qu'il ignorât que le corps de réserve de Victor, déjà assez près de Vérone, accourait en toute hâte, soit enfin qu'aveuglé par la haine, il espéra détruire tous les novateurs et avoir le temps d'en faire un grand exemple. Soit pour satisfaire la vengeance de l'oligarchie, il inonda la terre ferme de détachements d'esclavons et poursuivit les patriotes avec fureur en sonnant le tocsin et faisant retentir partout les cris de mort aux novateurs et à leurs partisans. Vainement, le ministre de France auprès du Sénat fit des efforts pour lui montrer l'abîme qu'il creusait sous ses pas. Vainement, il désavoua les désastres du Tyrol et ceux des armées de Sambre-et-Meuse et du Rhin. Vainement, il lui fit connaître le plan de campagne, lui apprenant que le mouvement de Joubert était un mouvement combiné, qu'il marchait sur la Carinthie par le Puchterstal, que loin d'être perdu, il avait atteint son but. On n'ajouta aucun crédit à ses paroles, on désirait trop vivement le contraire. La passion fut plus forte, on ne crut que ce que l'on souhaitait. De son côté, la cour de Vienne ne manqua pas de promettre de signer tout ce que Venise proposa. Elle sentait trop de quelle importance il était pour elle d'entretenir une insurrection sur les derrières des Français. Un corps de réserve laissé par le général français à Palma Nova, la garnison d'Osopo, et la prudence du provéditeur Mocenigo firent qu'il se commit moins d'excès dans le Frioul. Peut-être aussi, plus près de l'armée française, on y fut mieux instruit de la vérité. Cependant, les Bressians et autres de la terre ferme, ainsi que tous les Italiens des républiques, montraient du courage et de la force contre les Vénitiens. D'un autre côté, il sortit de tous nos dépôts des bataillons de marche et de nos places fortes des trains d'artillerie. Quoique tard, la division Victor arriva enfin de l'expédition de Rome et Vérone fut bientôt bloquée par une armée. Toutefois, les insurgés firent une vive résistance. Ils ne cédèrent qu'à des forces supérieures et à des attaques réitérées et se maintinrent jusqu'au 24 avril. 8. L'aide de camp Junot au Sénat de Venise. Dès que le général français fut instruit du désordre et des meurtres qui se commettaient sur ses derrières, il expédia à Venise son aide de camp Junot et le chargea pour le Sénat d'une lettre datée de Judenburg du 9 avril, conçue en ces termes. Dans toute la terre ferme, les sujets de la sérénissime République sont sous les armes, le cri de ralliement est « mort aux Français ». Le nombre des soldats de l'armée d'Italie qui en ont été les victimes se monte déjà à plusieurs centaines. Vous affectez en vain de désavouer les attroupements que vous-même avez préparés. Croyez-vous que, quand j'ai pu porter nos armes au cœur de l'Allemagne, je n'aurai pas la force de faire respecter le premier peuple du monde? Pensez-vous que les légions d'Italie puissent souffrir les massacres que vous excitez? Le sang de mes frères d'armes sera vengé, et il n'est pas un seul bataillon français qui, chargé de cette mission généreuse, ne se sente trois fois plus de courage et de moyens qu'il ne lui en faut pour vous punir. Le Sénat de Venise a répondu par la plus noire perfidie à notre générosité soutenue à son égard. Je prends le parti de vous envoyer mes propositions par l'un de mes aides de camp et chefs de brigade, la guerre ou la paix. Si vous ne prenez sur le champ toutes les mesures pour dissiper les attroupements, si vous ne faites pas ou plutôt arrêter et remettre entre mes mains les auteurs des meurtres qui se commettent, la guerre est déclarée. Le Turc n'est pas sur vos frontières, aucun ennemi ne vous menace, et cependant vous avez fait arrêter de dessein prémédité des prêtres pour faire naître un attroupement et le tourner contre l'armée. Je vous donne 24 heures pour les dissiper. Les temps de Charles VIII sont passés. Si, malgré la bienveillance que je vous ai montrée, vous me réduisez à vous faire la guerre, ne pensez pas que le soldat français, comme les brigands que vous armez aillent ravager les champs du peuple innocent et malheureux de la terre ferme. Non, je le protégerai, et il bénira jusqu'au forfait qui auront obligé l'armée française de l'arracher à votre tyrannique gouvernement. Signé Bonaparte. L'aide de camp eut l'ordre de lire cette lettre lui-même en plein Sénat et d'exprimer à cette assemblée toute l'indignation qu'excitait sa conduite. Mais déjà, la terreur était dans Venise, le prestige était dissipé. On savait que les armées du Rhin n'avaient pas bougé, pas essuyé d'échec, que Joubert était arrivé à Villarc avec toute son armée, que Victor, revenu de Rome, investissait Vérone, qu'Augereau, de retour d'une mission à Paris, se portait sur les lagunes avec une division de bataillons de marche, qu'enfin Napoléon, victorieux dans tous ses combats, avait porté l'épouvante jusque dans Vienne, qu'il venait d'accorder une suspension d'armes à ses ennemis, que ceux-ci lui avaient envoyé des plénipotentiaires pour lui demander la paix. L'abattement était extrême. Le ministre de France présenta Junot. Le Sénat fut à ses pieds. Tous les moyens furent employés pour l'adoucir. Cependant, il remplit sa mission avec toute la franchise et la rudesse d'un soldat, ce qui accrut de beaucoup l'épouvante du Sénat, exalta, au contraire, les amis de la liberté et leur fit prendre tout à fait le dessus dans la ville. Le Sénat envoya une grande députation au général français, lui proposant toutes les réparations qu'il pourrait désirer et lui offrant d'en passer par tout ce qui lui plairait de prescrire. Tout fut mis en œuvre. On offrit des millions à tout ce que l'on croyait avoir du crédit sur les esprits. Tout fut inutile. Il expédia alors des courriers à Paris et mit des sommes considérables à la disposition de son ministre afin de gagner les membres du directoire et faire donner au général français des ordres propres à sauver Venise. Tous ces moyens furent inutiles auprès du général français. Ils réussirent à Paris. La distribution de quelques sommes et une promesse de 10 millions valut au ministre de Venise des lettres et l'expédition d'ordres favorables. Mais il n'était pas revêtu de toutes les formes voulues. D'ailleurs, les dépêches du ministre au Sénat furent interceptées. Le général français y trouva le développement de toute l'intrigue, le montant des sommes données, celui des lettres de change, et par cela tout devenait nul. Vers la fin d'avril, Napoléon revint par Graz, Laibach, Trieste, Palmanova. Il passa de là à Trévise, sur le bord des lagunes, visita les différents débouchés des canaux, et rendit, le 3 mai, l'ordre du jour suivant, par laquelle, se fondant sur le principe naturel de repousser la force par la force, il déclarait la guerre à Venise. Ordre du jour ou manifeste. Pendant que l'armée française est engagée dans les gorges de la Styrie et laisse loin derrière elle l'Italie et les principaux établissements de l'armée où il ne reste qu'un petit nombre de bataillons, voici la conduite que tient le gouvernement de Venise. Premièrement, il profite de la Semaine Sainte pour armer 40 000 paysans, y joint 10 régiments d'esclavons, les organise en différents corps d'armée et les poste aux différents points pour intercepter toute communication entre l'armée et ses derrières. Deuxièmement, des commissaires extraordinaires, des fusils, des munitions de toute espèce, une grande quantité de canons sortent de Venise pour achever l'organisation des différents corps d'armée. Troisièmement, on fait arrêter en terre ferme tous ceux qui nous ont accueillis. On comble du bienfait et de toute la confiance du gouvernement ceux en qui l'on connaît une haine furibonde contre le non-français et spécialement les 14 conspirateurs de Vérone que le provéditeur Prioli avait fait arrêter il y a 3 mois comme ayant médité l'égorgement des Français. Quatrièmement, sur les places, dans les cafés et les autres lieux publics de Venise, on insulte ou on accable de mauvais traitements tous les Français, les dénommant des noms injurieux de jacobins, de régicides, d'athées. Les Français doivent sortir de Venise et peu après, il leur est même défendu d'y entrer. Cinquièmement, on ordonne au peuple de Padoue, de Vicence et de Vérone de courir aux armes, de seconder les différents corps d'armée et de commencer enfin ces nouvelles vêpres siciliennes. Il appartenait au lion de Saint-Marc, disent les officiers vénitiens, de vérifier le proverbe que l'Italie est le tombeau des Français. Et sixièmement, les prêtres en chair prêchent la croisade, et les prêtres dans l'état de Venise ne disent jamais que ce que veut le gouvernement. Des pamphlets, des proclamations perfides, des lettres anonymes sont imprimées dans les différentes villes et commencent à faire fermenter toutes les têtes. Et dans un état où la liberté de la presse n'est pas permise, dans un gouvernement aussi craint que secrètement abhorré, les imprimeurs n'impriment, les auteurs ne composent que ce que veut le Sénat. Septièmement, tout sourit d'abord au projet perfide du gouvernement. Le sang français coule de toutes parts. Sur toutes les routes, on intercepte nos convois, nos courriers et tout ce qui tient à l'armée. Huitièmement, à Padoue, un chef de bataillon et deux autres Français sont assassinés. À Castiglione et des Maurie, nos soldats sont désarmés et assassinés. Sur toutes les grandes routes, de Mantoue à Legnano, de Bassano à Vérone, nous avons plus de 200 hommes assassinés. Neuvièmement, deux bataillons français, voulant rejoindre l'armée, rencontrent à Chiari une division de l'armée vénitienne qui veut s'opposer à leur passage. Un combat s'engage et nos braves soldats se font passage en mettant en déroute ces perfides ennemis. Dixièmement, à Valeggio, il y a un autre combat. À Dozenzano, il faut encore se battre. Les Français sont partout peu nombreux, mais ils savent bien qu'on ne compte pas le nombre des bataillons ennemis lorsqu'ils sont composés d'assassins. Onzièmement, la seconde fête de Pâques au son de la cloche, tous les Français sont assassinés dans Vérone. On ne respecte ni les malades dans les hôpitaux, ni ceux qui, en convalescence, se promènent dans les rues, et qui sont jetés dans la dige ou meurent percés de 1000 coups de stylet. Plus de 400 Français sont assassinés. Douzièmement, pendant 8 jours, l'armée vénitienne assiège les 3 châteaux de Vérone. Les canons qu'ils mettent en batterie leur sont enlevés à la baïonnette. Le feu est mis dans la ville et la colonne mobile qui arrive sur ses entrefaites met ses lâches dans une déroute complète en faisant 3 000 hommes de troupes de ligne prisonniers, parmi lesquels plusieurs généraux vénitiens. Treizièmement, la maison du consul français de Zante a été brûlée dans la Dalmatie. Quatorzièmement, un vaisseau de guerre vénitien prend sous sa protection un convoi autrichien et tire plusieurs boulets contre la corvette La Brune. Quinzièmement, le libérateur d'Italie, bâtiment de la République, ne portant que 3 ou 4 petites pièces de canon et n'ayant que 40 hommes d'équipage, est coulé à fond dans le port même de Venise et par les ordres du Sénat. Le jeune et intéressant Laugier, lieutenant de vaisseau, commandant ce bâtiment, dès qu'il se voit attaqué par le feu du fort et par la galère amirale, n'étant éloigné de l'un et de l'autre que d'une portée de pistolet, ordonne à son équipage de se mettre à fond de cale. Lui seul, il monte sur le tillac au milieu d'une grande mitraille et cherche par ses discours à désarmer la fureur de ses assassins, mais il tombe raide mort. Son équipage se jette à la nage et est poursuivi par 6 chaloupes montées par des troupes soldées par la République de Venise qui tuent à coups de hache plusieurs de ceux qui cherchaient leur salut dans la haute mer. Un contremaître, blessé de plusieurs coups, affaibli, faisant sang de tous côtés, a le bonheur de prendre terre à un morceau de bois touchant au château du port, mais le commandant lui coupe le poignet d'un coup de hache. Vu les griefs ci-dessus, est autorisé par le titre 12, article 328 de la Constitution de la République, et vu l'urgence des circonstances, le général en chef requiert le ministre de France, près la République de Venise, de sortir de ladite ville, ordonne aux différents agents de la République de Venise dans la Lombardie et dans la terre ferme vénitienne de l'évacuer dans les 24 heures. Ordonne aux différents généraux de division de traiter en ennemis les troupes de la République de Venise, de faire abattre dans toutes les villes de la terre ferme le lion de Saint-Marc. Chacun recevra, à l'ordre du jour du lendemain, une instruction particulière pour les opérations militaires ultérieures. Au quartier général, à Palmanova, le 2 mai 1797. Cet ordre du jour acheva de porter le découragement à son comble. Les armes tombèrent des mains de chacun, on ne songea même pas à se défendre. Le grand conseil de l'aristocratie se démit et rendit la souveraineté au peuple. Une municipalité en fut la dépositaire. Ainsi, ces oligarques si fiers, si longtemps ménagés par le général français, dont l'alliance avait été sollicitée avec autant de bonne foi, tombèrent alors sans aucun moyen de salut. Ils sollicitèrent en vain, dans leurs angoisses, la cour de Vienne. Ils lui demandèrent inutilement de les comprendre dans la suspension d'armes et dans les négociations de paix. Cette cour fut sourde à toutes leurs instances. Elle l'avait ses vues. 9. Les troupes françaises entrent à Venise. Révolution de cette ville. Baraguédillier entra dans Venise avec sa division vers la moitié de mai. Il saisit les lagunes, les forts, les batteries de la ville et planta le drapeau tricolore sur la place Saint-Marc le 16. Aussitôt, le parti de la liberté se réunit en assemblée populaire. L'aristocratie fut détruite et Dandolo, avocat de Venise, se mit à la tête de toutes les affaires. Le lion de Saint-Marc et les fameux chevaux de Corinthe qui étaient dans cette ville furent transportés à Paris. Il se trouva aussi environ 12 vaisseaux de 64, autant de frégates et de moindres bâtiments. Ils furent tous équipés et envoyés à Toulon. Corfou était un des points les plus importants de la République vénitienne. Le général Gentili, celui-là même qui avait été envoyé à la reprise de la Corse, y fut expédié avec 4 bataillons et quelques compagnies d'artillerie. Une escadre formée de vaisseaux vénitiens prit possession de cette place, la véritable clé de l'Adriatique, ainsi que de 6 autres villes ioniennes, Zante, Sirigo, Céphalonie, etc. Pezzaro et ses principaux amis demeurèrent couverts de l'animadversion générale. On les accusa d'avoir perdu la République en confiant ses destinées aux Autrichiens. Ils se sauvèrent de Venise et furent prendre refuge à Vienne. Battaglia regretta sincèrement la perte de sa patrie. Blâmant depuis longtemps la marche suivie, il n'avait que trop prévu cette catastrophe et mourut à quelque temps de là. 10. Révolution dans toute la terre ferme. À la réception de l'ordre du jour qui déclarait la guerre à Venise, toute la terre ferme se souleva contre la capitale. Chaque ville proclama son indépendance et se forma un gouvernement. Bergame, Brescia, Padoue, Vicence, Bassano, Udine furent aussitôt autant de républiques séparées. C'est par ce même système qu'avaient commencé les républiques cispadanes et transpadanes. Partout, on adopta les principes de la Révolution française. On restreignit les couvents, on constitua les domaines nationaux, on supprima les privilèges féodaux. L'élite de la noblesse et des grands propriétaires se réunit en escadrons de hussards et de chasseurs, sous le titre de garde d'honneur. Les classes inférieures se réunissaient en bataillons de la garde nationale. On adopta les couleurs nationales d'Italie et l'on se fédéra. Malgré l'extrême vigilance du général français pour empêcher les abus et les dilapidations, il y en eut en ce moment plus qu'en aucune autre période de la guerre d'Italie. Le pays était partagé entre 2 factions très animées, les passions y furent plus ardentes et les excès plus osés. Lors de la reddition de Vérone, le mont-de-piété de cette ville, riche de 7 à 8 millions, fut volé. Le commissaire des guerres Bouquet et un colonel de hussards, Andrieux, accusés de cette horrible dilapidation, furent arrêtés. Cette dilapidation portait un caractère d'autant plus révoltant qu'elle était accrue par une série de crimes nécessaires pour la cacher et qu'elle s'exerçait sur la classe des indigents et des pauvres. Tout ce qui put être retrouvé dans les maisons des prévenus fut restitué aux propriétaires, dont la perte néanmoins resta très considérable. Fragment de Léoben, 6 opérations de Joubert dans le Tyrol. Joubert avait battu l'ennemi sur le Lavisio le 20 mars. Il lui avait fait plusieurs milliers de prisonniers. Il l'avait poursuivi à Botzen, l'avait défait de nouveau à Clausen, avait forcé les gorges d'Innsbruck le 28 et, se dirigeant à la droite par le Pusterstall le long de la Drave, avait marché pour déboucher la Carinthie et venir prendre la gauche de l'armée française. Il avait laissé un corps d'observation sur le Lavisio pour couvrir Vérone en Italie. Ce corps devait au besoin se replier sur le Montebaldo. Bernadotte, de son côté, après avoir organisé la carniole, avait rejoint l'armée en laissant sous les ordres du général Friant un corps d'observation pour couvrir l'Aibach. On était menacé du côté de la Croatie. L'Autriche avait fait une levée très considérable dans cette population d'une organisation spéciale toute militaire. Friant avait eu des affaires très brillantes, mais ne croyant pas garder Fiume, il se contenta de prendre une position propre à couvrir Laibach et Trieste. Du reste, il avait eu pour instruction de regagner, en cas de besoin, Palmanova, qui avait été bien armée, et d'y grossir le corps d'observation qu'on y avait placé pour couvrir l'Italie. De Klagenfurt, l'armée française continua sa marche pour gagner la Mour. Le prince Charles espérait tenir dans les gorges de Neumarkt. Il lui était très important de couvrir ses communications avec Salzbourg, Linn et le Tyrol, d'où il attendait des renforts très considérables. Pour en être plus certain, il demanda une suspension d'armes au général français, qui, comprenant son but, la lui refusa. Il fut donc attaqué à Neumarkt et forcé sans coup férir. Il perdit du canon et des prisonniers. Une division de grenadiers venus du Rhin couvrait sa retraite. Il fut attaqué encore et battu de nouveau à Hunsmarkt. Enfin, le quartier général atteignit Judenburg et nos avant-postes parvinrent jusqu'à Simmering. Dès lors, toute combinaison du prince Charles à l'égard de ses renforts se trouva déjouée. Nous lui coupions désormais les deux routes du Tyrol et de Salzbourg. Les troupes qui avaient été opposées à Joubert et dans le Tyrol et que ce prince avait appelées à lui, celles bien plus considérables encore qui lui arrivaient du Rhin par Salzbourg et que se trouvaient déjà les unes et les autres engagées dans ces routes transversales, furent obligées de rétrograder, ne pouvant plus désormais se rallier au prince Charles que par derrière le Simmering. Le désordre et la terreur régnaient dans Vienne. Rien n'arrêtait cette redoutable armée française. Tant de positions réputées inexpugnables, tant de gorges que l'on croyait impossible de forcer, se trouvaient toutes franchies, et le drapeau tricolore flottait sur le sommet du Simmering à 3 journées de Vienne. Une partie de la famille impériale avait quitté cette capitale. Marie-Louise, mariée depuis à Napoléon et impératrice des Français, alors âgée de 5 ans, fut mise en route avec ses sœurs. Les archives et les objets les plus précieux se transportaient en Hongrie. Toutes les premières familles, imitant celles du souverain, faisaient évacuer à la hâte ce qu'elles avaient de plus cher, et les esprits les plus sages voyaient la monarchie à la veille d'un entier bouleversement. Lorsque le général français avait ouvert la campagne, le gouvernement lui avait promis qu'aussitôt qu'il aurait passé l'Isonzo, les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse, fortes de plus de 150 000 hommes, sortiraient de leur quartier et pénétreraient en Allemagne. Mais l'Isonzo était déjà passé depuis longtemps et ses armées demeuraient encore dans leur quartier d'hiver. Le général français, profitant de la victoire du Tagliamento et des fausses directions que le prince Charles avait données à ses colonnes, avait franchi et sans perte, par cette seule victoire, tous les obstacles entre les Alpes et le Simmering. 7. Napoléon écrit au prince Charles. Le lendemain de la victoire du Tagliamento, Napoléon instruisit le directoire qu'il suivait le prince Charles, l'épée dans les reins, et que bientôt les drapeaux français flotteraient sur les sommités du Simmering, qu'il se flattait que les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse étaient en marche, ou que, si elles n'y étaient pas, elles y seraient bientôt. Il insistait surtout pour connaître le moment précis de leur mouvement. 15 à 20 jours de retard lui importait peu, mais il devait en être instruit afin d'agir en conséquence. Il prévenait qu'il aurait constamment toute son armée réunie sous sa main et que ses positions seraient telles qu'il demeurerait toujours maître des événements, qu'il suffirait donc de lui désigner seulement l'époque précise de la marche de ces deux armées. Ce fut à Klagenfurt qu'il reçut la réponse à cette dépêche. Elle portait les félicitations du directoire sur ses nouveaux succès, mais contenait en même temps la déclaration singulière et inattendue que les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse ne passeraient pas le Rhin, et que l'on ne devait plus compter sur la diversion en Allemagne, parce que les désastres de la campagne dernière les privaient de bateaux et du matériel nécessaire. Cette étrange dépêche ne pouvait provenir que d'intrigues ou de vues politiques qu'il devenait inutile de pénétrer. Seulement, il ne convenait plus au général français de réaliser désormais ce qui avait été le plus ardent de ses vœux, de planter ses drapeaux victorieux sur les remparts de Vienne. Il ne devait plus songer à dépasser le Simmering sans manquer aux règles de la sagesse. Aussi, 2 heures après la réception du courrier, il écrivit au prince Charles et qu'ayant pouvoir de négocier, il lui offrait la gloire de donner la paix au monde et de finir les maux de son pays. « Monsieur le général en chef, les braves militaires font la guerre et désirent la paix. La guerre ne dure-t-elle pas depuis 6 ans? Avons-nous tué assez de monde et assez commis de maux à la triste humanité? Elle réclame de tous côtés. L'Europe, qui avait pris les armes contre la République française, les a posées. Votre nation reste seule, et cependant le sang va couler encore plus que jamais. Cette sixième campagne s'annonce par des présages sinistres. Quelle qu'en soit l'issue, nous tuerons de part et d'autre quelques milliers d'hommes de plus, et il faudra bien que l'on finisse par s'entendre, puisque tout a un terme, même les passions haineuses. Le directoire exécutif de la République française avait fait connaître à Sa Majesté l'Empereur le désir de mettre fin à la guerre qui désole tous les peuples. L'intervention de la Cour de Londres s'y est opposée. N'y a-t-il donc aucun espoir de nous entendre? Et faut-il, pour les intérêts et les passions d'une nation étrangère, au mot de la guerre, que nous continuions à nous entr'égorger? Vous, monsieur le général en chef, qui, par votre naissance, approchez si près du trône, et êtes au-dessus de toutes les petites passions qui animent souvent les ministres et les gouvernements, êtes-vous décidé à mériter le titre de bienfaiteur de l'humanité entière et de vrai sauveur de l'Allemagne? Ne croyez pas, monsieur le général en chef, que j'entends de par là qu'il ne soit pas possible de la sauver par la force des armes, mais dans la supposition que les chances de la guerre vous deviennent favorables, l'Allemagne n'en sera pas moins ravagée. Quant à moi, monsieur le général en chef, si l'ouverture que je viens de vous faire peut sauver la vie à un seul homme, je m'estimerai plus fier de la couronne civique que je me trouverai avoir méritée que de la triste gloire qui peut revenir des succès militaires. Je vous prie, etc. Signé Bonaparte. » Ces nouvelles laissèrent respirer à Vienne et y donnèrent quelques espérances. Le marquis de Gallo, ambassadeur de Naples, fut aussitôt envoyé au général français, mais n'ayant pas de pouvoir, il fut obligé de retourner après une conférence de 2 heures. Le lendemain, les généraux Bellegarst et Merfeldt vinrent au quartier général français à Judenburg, et sur leur parole que des plénipotentiaires allaient arriver de Vienne pour y traiter de la paix définitive, ils obtinrent une suspension d'armes qui assurait à l'armée française la possession des pays qu'elle occupait déjà et d'autres encore qu'elle n'occupait pas mais qui étaient nécessaires à sa ligne. Les généraux autrichiens comprenaient avec peine comment le général français, dans sa belle situation, pouvait accorder un armistice. Il ne l'expliquait que par l'inaction des armées françaises sur le Rhin. Cependant, Napoléon ressentait vivement la force des circonstances. Il déplorait dans son cœur qu'un défaut de combinaison ou qu'une vaine jalousie le privasse des immenses résultats qu'il était à la veille de recueillir. S'il avait été un peu sensible à la gloire d'entrer dans Rome, il s'était passionné de l'idée d'entrer dans Vienne, et rien que la seule déclaration du directoire pouvait en ce moment l'empêcher. 9. Les préliminaires furent signés à Leoben. Pour la signature, on se réunit dans une petite maison de campagne qu'on neutralisa. Les secrétaires dressèrent d'abord le procès-verbal de la neutralisation et les plénipotentiaires respectifs s'y rendirent ensuite pour signer. Les commissaires autrichiens avaient mis en tête du traité que l'empereur reconnaissait la République française. « Effacez, dit Napoléon, l'existence de la République est aussi visible que le soleil. Un pareil article ne pourrait convenir qu'à des aveugles. Nous sommes maîtres chez nous, nous voulons y établir le gouvernement qu'il nous plaît, sans que personne y trouve à redire. » À Leoben, le quartier général français se trouva chez l'évêque même. On était dans la semaine sainte. Toutes les cérémonies religieuses et celles de Pâques se firent avec la plus grande solennité au milieu de l'armée française. Cette armée, accoutumée au respect pour le culte des religions du pays où elle se trouvait, en agit ici comme auraient agi les troupes autrichiennes, ce qui satisfit au dernier degré le peuple et le clergé. Les préliminaires ayant été signés à Leoben le 18 et le 20, le général français reçut de nouvelles dépêches du directoire annonçant que les armées du Rhin se mettaient en mouvement, qu'elles allaient passer le Rhin et qu'elles seraient bientôt au cœur de l'Allemagne. Effectivement, quelques jours après, on apprit que l'armée de Sambre-et-Meuse, sous le commandement de Hoche, avait passé le Rhin le 19, veille du jour même de la signature des préliminaires de Leoben, mais 40 jours après l'ouverture de la campagne en Italie. L'adjudant général Dessol, qui portait les préliminaires à Paris, rencontra nos troupes aux prises avec celles de l'ennemi. il est difficile d'expliquer la cause de ce changement subit dans le système du gouvernement. Si Napoléon eut appris le 17 au lieu du 20 les nouvelles intentions du directoire, il est certain que les préliminaires n'auraient pas été signés ou qu'on eût exigé de bien meilleures conditions. Toutefois, celles qu'on obtint dépassèrent encore de beaucoup les espérances du directoire. Dans ses instructions au général français, il avait autorisé à conclure la paix toutes les fois que les frontières constitutionnelles de la République seraient reconnues. Il est vrai qu'en donnant ces instructions, le directoire avait été loin de deviner les succès et l'ascendant de cette armée et n'avait pu prévoir ainsi tout ce qu'il pourrait exiger. 10. Parmi les diverses causes auxquelles on attribua l'étrange conduite du directoire dans cette occasion, beaucoup ont pensé que bien des personnes en France voyaient avec quelque jalousie la grande renommée de Napoléon. Sa marche hardie et décidée leur inspirait des craintes sur les projets ultérieurs que pourrait nourrir son ambition. La proclamation par laquelle il avait protégé en Italie les prêtres déportés et qui lui avait gagné beaucoup de partisans en France, son style respectueux envers le pape, son refus de détruire le Saint-Siège, ses ménagements pour le roi de Sardaigne et pour les aristocrates de Gênes et de Venise, tout cela avait fait de grandes impressions et se trouvait commenté souvent avec des intentions fort malignes. Lorsqu'on vit la victoire du Tagliamento et les succès qui suivirent, les Alpes noriques passées et l'Allemagne envahie par cette route inconnue, la joie de la République à la vue des grandes humiliations de notre implacable ennemi fut beaucoup diminuée aux yeux de plusieurs par la crainte de voir Napoléon acquérir une gloire nouvelle en entrant triomphant dans Vienne et réunir alors sous son commandement toutes les forces de la République. Qui pourra, se disait-il, sauver la liberté publique de l'influence d'un caractère et d'une gloire si extraordinaire? Si les armées du Rhin ont été battues l'an passé, elles ne devront leur succès cette année qu'à Napoléon, qui aura tourné à lui seul toute l'Allemagne et les devancera de 15 à 20 jours dans Vienne. Ces armées, d'ailleurs, participant déjà à la gloire de l'armée d'Italie par les deux divisions qui ont été envoyées, partageront aussi son enthousiasme pour le jeune héros. Il les maîtrisera toutes. Beaucoup de raisons faisaient donc désirer que Napoléon fût empêché d'entrer dans Vienne, que non seulement les trois armées demeurassent séparées, mais qu'encore on alimenta entre elles une certaine jalousie. Il parut que ces idées influèrent d'abord sur la décision du directoire. Mais dès que la nouvelle des brillants succès de l'armée d'Italie et son entrée en Allemagne eurent atteint les armées du Rhin par la voie des papiers publics et les relations de l'ennemi, alors elles s'indignèrent elles-mêmes de leur oisiveté et demandèrent à grands cris si l'armée d'Italie devait tout faire. À ce mouvement se joignit le sentiment du grand nombre de familles qui avaient leurs enfants à l'armée d'Italie et l'opinion de la généralité des citoyens animée des sentiments nobles et purs qui ne pouvaient rien comprendre à l'inaction des autres armées. L'impulsion fut si violente que ces armées du Rhin, de Sambre et Meuse, durent alors passer le fleuve et marcher en Allemagne. On retira le commandement de l'armée de Sambre-et-Meuse à Burnonville, homme nul, sans talent civil ou militaire, et on le confia à Hoche, jeune général du plus grand mérite. Son patriotisme ardent, joint à une extrême activité, à une ambition désordonnée, aux soins qu'il prenait de se concilier les officiers et de se créer un grand nombre de partisans, faisait espérer que, placé à la tête de l'armée la plus nombreuse et secondé de toute l'influence du gouvernement, il serait aisément un rival propre à partager l'opinion des soldats et des citoyens et garantir ainsi la République, quelle que fût d'ailleurs l'amitié, l'estime, l'espèce d'enthousiasme même que Hoche n'eût cessé de témoigner en toute occasion pour Napoléon. Ces réflexions étaient faites publiquement dans les sociétés de Paris et ne pouvaient manquer de revenir à Napoléon qui, au sommet des grandeurs et de la gloire, ne se trouvait donc environné que de précipices. La guerre ne pouvait plus désormais qu'empirer sa situation, surtout en accroissant sa gloire. Il en chercha aussitôt une nouvelle dans la paix qui devait le rendre cher à toute la population et créer pour lui un nouvel ordre d'événements, car c'était désormais le seul qui pût soustraire la République à la situation fâcheuse à laquelle la portait en ce moment la fausse direction de l'esprit public dans l'intérieur. Retour de Rastatt. Un retour de Rastatt à Paris. Napoléon, parti de Rastatt, traversa la France incognito, arriva à Paris sans s'arrêter et descendit à sa petite maison chaussée d'Antin, rue Chantraine. Une délibération de la municipalité de Paris donna quelques jours après à cette rue le nom de rue de la Victoire. Le corps municipal, l'administration du département, les conseils cherchèrent à l'envi les moyens de lui témoigner la reconnaissance nationale. On proposa au conseil des anciens de lui donner la terre de Chambord et un grand hôtel à Paris. C'eût été tout à fait convenable. Le général de l'armée d'Italie, qui pendant 2 ans avait nourri son armée, créé et entretenu son matériel, soldé plusieurs années de soldes arriérés, fait passer 30 ou 40 millions aux caisses de France et plusieurs centaines de millions en chefs-d'œuvre des arts, tout aux affaires publiques, avait négligé sa propre fortune. Il ne possédait pas 100 000 écus en argenterie, bijoux, argent, meubles, etc. Une grande récompense nationale eût donc été tout à fait à sa place. Mais le directoire, sans qu'on sache pourquoi, s'alarma de cette proposition et ses affidés l'écartèrent en répondant que les services du général n'étaient point de ceux qu'on récompense avec de l'argent. Dès son arrivée, les chefs de tous les partis se présentèrent chez lui, mais ils n'y furent point admis. Le public était extrêmement avide de le voir. Les rues, les places par où on croyait qu'il passerait, étaient pleines de monde, mais il ne se montrait nulle part. L'Institut venait de le nommer membre de la classe de mécanique. Ce fut le costume qu'il adopta. Il ne reçut d'habitude que quelques savants, tels que Monge, Berthollet, Borda, Leplace, Prony, Lagrange. Peu de généraux, seulement Kléber, Dessay, Lefebvre, Caffarelli du Falga et un petit nombre de députés. Le directoire voulut le recevoir en audience publique. On fit des échafaudages dans la place du Luxembourg pour cette cérémonie où il fut conduit et présenté par le ministre des Relations extérieures, Talleyrand. La substance de son discours fut que quand la République aurait les meilleures lois organiques, son bonheur et celui de l'Europe seraient assurés. Il évita de parler de Fructidor, des affaires du temps et de l'expédition d'Angleterre. Ce discours simple donna cependant beaucoup à penser et ne put donner prise à aucun ennemi. Le directoire et le ministre des Relations extérieures lui donnèrent 2 fêtes. Il parut à l'une et à l'autre, y resta peu de temps. Il eut l'air d'être peu sensible à ces fêtes. Celle du ministre des Relations extérieures, Talleyrand, fut marquée au coin du bon goût. Tout Paris y était. Une femme célèbre, déterminée à lutter avec le vainqueur de l'Italie, l'interpella au milieu d'un grand cercle, lui demandant quelle était à ses yeux la première femme du monde, morte ou vivante. « Celle qui a fait le plus d'enfants, lui répondit-il. » On courait aux séances de l'Institut pour y voir le général. Il n'y manquait jamais. Il n'allait au spectacle qu'en loge grillée. Il rejeta bien loin la proposition des administrateurs de l'opéra qui voulaient donner une représentation d'apparat. Le maréchal de Saxe, de Lowendal, du Mourier, y avait triomphé au retour de l'armée. Lorsqu'au retour d'Égypte, au 18 Brumaire, il parut aux Tuileries, il était encore inconnu aux habitants de Paris, ce qui redoubla le désir de le voir. 2. Jalousie du directoire. Le directoire lui témoignait les plus grands égards. Quand il voulait consulter, il envoyait toujours un des ministres le prendre. Il était admis sur le champ, prenait séance entre 2 des directeurs et donnait son avis sur les objets du moment. Les troupes, rentrant en France, chantaient des chansons en son honneur, le portaient au nu. Elles disaient qu'il fallait chasser les avocats et le faire roi. Les directeurs affectaient la franchise jusqu'à lui montrer les rapports secrets que leur en faisait la police, mais ils dissimulaient mal la peine qu'ils éprouvaient de tant de popularité. Le général d'Italie appréciait toute la délicatesse et les embarras de la situation. Le gouvernement marchait mal et beaucoup d'espérances se tournaient vers lui. Le directoire eut d'abord la pensée de le faire retourner à Rastatt pour sauter la responsabilité du congrès, mais le général refusa cette mission, représentant qu'il ne convenait pas que la même main maniât la plume et l'épée. Depuis, le directoire le nomma commandant de l'armée d'Angleterre, ce qui servit à couvrir aux yeux de l'ennemi l'intention et les apprêts de l'expédition d'Égypte. Les troupes qui composaient cette armée d'Angleterre couvraient la Normandie, la Picardie, la Belgique. Son nouveau général en chef fut inspecter tous ces points, mais il voulut les parcourir incognito. Ces courses mystérieuses inquiétaient d'autant plus l'ennemi et masquaient davantage les préparatifs du midi. Il avait la satisfaction de vérifier partout les sentiments qu'inspiraient sa personne et sa gloire. Il se trouvait partout l'objet de toutes les conversations, de tous les préparatifs. C'est dans ce voyage, en visitant Anvers, qu'il conçut pour la première fois les grandes idées maritimes qu'il y fit exécuter depuis. C'est alors encore qu'il jugea à Saint-Quentin de tous les avantages du canal qu'il a fait construire dans la suite. Enfin, c'est alors qu'il fixa ses idées sur la supériorité que la marée donnait à Boulogne-sur-Calais pour tenter, avec de simples péniches, une entreprise sur l'Angleterre. 3. Premier incident qui détermine le directoire à abandonner les principes de politique posés à Campo Formio. Les principes de la politique qui réglait la République avaient été déterminés à Campo Formio. Le directoire y était étranger. D'ailleurs, il ne pouvait maîtriser ses passions, chaque incident le dominait. La Suisse en fournit le premier exemple. La France avait constamment à se plaindre du canton de Berne et de l'aristocratie suisse. Tous les agents étrangers qui avaient agité la France avaient toujours eu à Berne leur levier, leur point d'appui. Il s'agissait de profiter de la grande influence que nous venions d'acquérir en Europe pour détruire la prépondérance de nos ennemis en Suisse. Le général d'Italie approuvait fort le ressentiment du directoire. Il pensait que le moment était venu d'assurer à la France l'influence politique de la Suisse, mais il ne croyait pas nécessaire pour cela de bouleverser ce pays. Il fallait, pour se conformer à la politique adoptée, arriver à son but avec le moins de changements possible. Il proposait que notre ambassadeur en Suisse présentât une note, appuyée de deux corps d'armée en Savoie et en Franche-Comté, dans laquelle il ferait connaître que la France et l'Italie croyaient nécessaire à leur politique et à leur sûreté, ainsi qu'à la dignité réciproque des trois nations, que le pays de Vaud, l'Argovie et les bailliages italiens devinssent des cantons libres, indépendants, égaux aux autres cantons. Que la France et l'Italie avaient beaucoup à se plaindre de l'aristocratie de certaines familles de Berne, de Soleure, de Fribourg, mais qu'elles oublieraient tout si les paysans de ces cantons étaient réintégrés dans leurs droits politiques. Tous ces changements se seraient opérés sans effort et sans l'emploi des armes. Mais Rêvebel, entraîné par les démagogues de la Suisse, fit adopter un système différent, sans égard aux mœurs, à la religion et aux localités des cantons. On arrêta de soumettre toute la Suisse à une constitution unique semblable à celle de la France. Les petits cantons s'irritèrent de perdre leur liberté et toute la Suisse se souleva à l'aspect d'un bouleversement qui forçait tous les intérêts, allumait toutes les passions. On courut aux armes, il fallut faire entrer nos troupes et conquérir tout le pays. Du sang fut versé, l'Europe fut alarmée. 4. Second incident. D'un autre côté, cette misérable cour de Rome, par une suite du vertige qui la caractérisait, aigrie plutôt que corrigée par le traité de Tolentino, continuait dans son système d'aversion et de faute contre la France, dans l'espoir de comprimer dans son sein les amis de la France. Ce cabinet de faibles vieillards sans sagesse fit fermenter autour de lui les opinions contraires. Il se mit en querelle avec la République cisalpine. Il eut l'imprudence de mettre le général autrichien Provera à la tête de ses troupes. Il excita son propre parti de toutes les manières. Il y eut tumulte. Le jeune Duflot, général de la plus belle espérance qui se trouvait à Rome comme voyageur, fut massacré à la porte de l'ambassadeur de France, cherchant à empêcher le désordre. Et l'ambassadeur français Joseph, frère du général, se retira à Florence. Napoléon, consulté, répondit par son adage accoutumé que ce n'était point à un incident à gouverner la politique, mais bien à la politique à gouverner les incidents. Que quelque tort qu'eût cette inepte cour de Rome, le parti à prendre vis-à-vis d'elle demeurait toujours une fort grande question, qu'il fallait la corriger mais non pas la détruire, qu'en renversant le pape et révolutionnant Rome, on aurait infailliblement la guerre avec Naples, ce qu'il fallait sur toute chose éviter. qu'il fallait ordonner à notre ambassadeur de retourner à Rome, demander un exemple des coupables, exiger qu'une ambassade extraordinaire vînt faire des excuses au Luxembourg, faire sortir Provera, mettre à la tête des affaires les prélats les plus modérés et forcer le pape à conclure un concordat avec la République cisalpine afin que, par toutes ces mesures réunies, Rome tranquille ne pût plus avoir part aux affaires. Que ce concordat avec la Cisalpine aurait de plus l'avantage de préparer de loin les esprits en France à une pareille mesure. Mais la Révellière, entourée de ses théophilanthropes, fit décider qu'on marcherait contre le pape. Le temps était venu, disait-il, de faire disparaître cette idole. Le mot d'ailleurs de République romaine suffisait pour transporter toutes les imaginations ardentes de la Révolution. Le général français avait été trop circonspect dans le temps, et si on avait des querelles aujourd'hui avec le pape, c'était uniquement sa faute. Mais peut-être avait-il ses vues particulières. En effet, ses formes civiles, ses ménagements vis-à-vis du pape, sa généreuse compassion pour les prêtres déportés avaient, dans le temps, fortement frappé les esprits en France. Quant à la crainte que la révolution de Rome n'entraînât la guerre avec Naples, on la traita de subtilité. Nous avions nous-mêmes un parti nombreux à Naples et nous ne devions rien craindre d'une puissance de troisième ordre. Berthier reçut donc l'ordre d'aller avec une armée saisir Rome et y établir la République romaine, ce qui fut exécuté. On établit à Rome trois consuls pour exercer le pouvoir, un sénat et un tribunat composés à la législature. 14 cardinaux se rendirent à la basilique Saint-Pierre et chantèrent un Te Deum en commémoration du rétablissement de la République romaine, qui n'était rien moins que l'abolition de l'autorité temporelle du pape. Mais le peuple, enivré à un moment de l'idée de l'indépendance, entraîna la plus grande partie du clergé. Cependant, la main qui avait jusque-là retenu les officiers et les administrations de l'armée n'y était plus. On se livra dans Rome aux dernières dilapidations. On gaspilla tout le mobilier du Vatican, on saisit partout les tableaux et les objets rares. On indisposa tellement le pays que le pays à son tour vint à bout d'indisposer l'armée. Elle se souleva contre des généraux qu'elle accusait. Ce mouvement séditieux des soldats fut le plus grand danger. On eut beaucoup de peine à les contenir. On croit avec raison qu'ils furent excités par des agents napolitains, anglais, autrichiens. 5. Troisième incident. Bernadotte avait été nommé ambassadeur à Vienne. Ce choix ne fut pas bon. Un général ne pouvait être agréable à une nation si constamment battue. Il aurait fallu envoyer un personnage de l'ordre civil. Mais le directoire avait peu de ceux-ci à sa disposition, ou ils étaient trop obscurs, ou il les avait éloignés. Quoi qu'il en soit, Bernadotte, alors d'un caractère fort exalté, fit des graves fautes dans son ambassade. Un jour, sans qu'on en puisse deviner le motif, il fit arborer le pavillon tricolore au haut de sa maison. On pense qu'il y fut insidieusement poussé par des agents qui voulaient compromettre l'Autriche. En effet, la populace, à l'instigation des mêmes agents, se trouva tout à coup insurgée. Elle arracha le drapeau et insulta Bernadotte. Le directoire, dans sa fureur, manda le général d'Italie pour s'appuyer de son influence dans l'opinion et lui donna lecture d'un message au Conseil qui déclarait la guerre à l'Autriche et d'un décret qui lui donnait à lui-même le commandement de l'armée d'Allemagne. Il ne partagea pas l'opinion du directoire. Si vous vouliez la guerre, il fallait vous y préparer, indépendamment de l'événement de Bernadotte. Il fallait ne pas envoyer vos troupes en Suisse, dans l'Italie méridionale, sur les bords de l'océan. Il ne fallait pas proclamer le projet de réduire l'armée à 100 000 hommes, projet qui n'est pas encore exécuté, il est vrai, mais qui est connu et décourage l'armée. Ces mesures indiquent que vous aviez compté sur la paix. Bernadotte a matériellement tort. En déclarant la guerre, c'est le jeu dans l'Angleterre que vous jouez. Ce n'est pas connaître la politique du cabinet de Vienne que de croire que s'il eût voulu la guerre, il vous eût insulté, il vous aurait caressé, endormi, pendant qu'il aurait fait marcher ses troupes. Vous n'auriez connu ses véritables intentions que par son premier coup de canon. Soyez sûr que l'Autriche vous donnera toute satisfaction. Ce n'est point avoir un système politique que d'être entraîné ainsi par tous les événements. La force de la vérité calma le gouvernement. L'Autriche donna des satisfactions, les conférences de Seltz eurent lieu, mais cet incident retarda l'expédition d'Égypte de 15 jours. 6. Retard de l'expédition d'Égypte. Napoléon commença à craindre qu'au milieu des orages que l'impéritie du gouvernement et la nature des choses accumulaient autour de nous, cette entreprise ne fût funeste aux vrais intérêts de la patrie. Il témoigna sa pensée au directoire. L'Europe, disait-il, n'était rien moins que tranquille. Le congrès de Rastatt ne se terminait pas. On était obligé de garder des troupes dans l'intérieur pour s'assurer des élections et comprimer les départements de l'Ouest. Il proposait de contremander l'expédition, d'attendre des circonstances plus favorables. Le directoire, alarmé, soupçonnant qu'il avait le projet d'aspirer à la direction des affaires, n'en fut que plus ardent à presser l'expédition, d'autant plus qu'il ne sentait pas toutes les conséquences des changements qu'il avait faits dans le système public. Selon lui, l'événement de la Suisse, loin de nous affaiblir, nous donnait d'excellentes positions et les troupes helvétiques pour auxiliaires. L'affaire de Rome était terminée, puisque le pontife était déjà à Florence et la République romaine proclamée. Et celle de Bernadotte ne devait plus avoir de suite, car l'empereur avait offert des réparations. Le moment était donc plus favorable que jamais d'attaquer l'Angleterre, ainsi qu'on l'avait médité en Irlande et en Égypte. On offrit alors de laisser au moins Kléber ou Desaix, qui brûlaient d'être de l'expédition. Leur grand caractère et leur talent supérieur pouvaient, au besoin, être en France d'une grande utilité. Mais on refusa Kléber, que Reffbel détestait, et Desaix qu'on n'appréciait pas. La République, disait-on, n'en était pas à ces deux généraux près. Il s'en trouverait une foule pour faire triompher la patrie, si jamais elle était en danger. 7. L'intérieur de la République est menacé d'une crise. Le directoire était sur un abîme, mais il ne le croyait pas. Les affaires allaient mal aussi dans l'intérieur. Le directoire avait abusé de sa victoire de Fructidor. Il avait eu le tort de ne pas rallier à la République tout ce qui, n'ayant pas fait partie de la faction de l'étranger, n'avait été que séduit ou égaré. Il était privé par là de l'assistance et des talents d'un grand nombre d'individus qui, par ressentiment, se jetaient dans le parti opposé à la République, bien que leurs intérêts et leurs opinions les portassent naturellement vers ce gouvernement. Il se trouvait contraint d'employer des hommes sans moralité. De là le mécontentement de l'opinion publique et la nécessité de maintenir un grand nombre de troupes au-dedans pour s'assurer des élections et contenir la Vendée. Il était facile de prévoir que les nouvelles élections amèneraient une crise, que le nouveau tiers de législateurs serait composé d'hommes exagérés qui accroîtraient la source des maux qui pesaient sur la patrie. Le directoire n'avait aucune politique intérieure. Il marchait au jour le jour, entraîné par le caractère individuel des directeurs ou par la nature vicieuse d'un gouvernement de 5 personnes. Il ne prévoyait et n'apercevait de difficultés que quand il était matériellement arrêté. Quand on lui disait « Comment ferez-vous aux élections prochaines ?»« Nous y pourvoirons par une loi », répondait la Révellière. La suite a fait voir de quelle nature était la loi méditée par le directoire. Quand on lui disait « Pourquoi ne relevez-vous pas tous les amis de la République qui n'ont été que menés et trompés en Fructidor par le parti de l'étranger ?» Pourquoi ne pas rappeler Carnot, Portalis, Dumollard, Barbé-Marbois, etc., etc., afin de faire un faisceau contre le parti de l'étranger et les exagérer? Mais les directeurs attachaient peu de prix à ces observations. Ils se croyaient populaires et assis sur un terrain solide et ferme. Un parti composé des députés ayant l'influence dans les deux conseils, des fructidoriens patriotes qui cherchaient un protecteur, des généraux les plus influents et les plus éclairés, pressèrent longtemps le général d'Italie de faire un mouvement et de se mettre à la tête de la République. Il s'y refusa. Il n'était pas encore assez fort pour marcher tout seul. Il avait sur l'art de gouverner et sur ce qu'il fallait à une grande nation des idées si différentes des hommes de la Révolution et des assemblées que, ne pouvant agir seul, il craignait de compromettre son caractère. Il se détermina à partir pour l'Égypte, mais résolut de reparaître si les circonstances venaient à rendre sa personne nécessaire ou utile. 8. Cérémonie du 21 janvier. Talleyrand, ministre des Relations extérieures, était l'homme du directoire. Il était évêque d'Autun lors de la Révolution. Il fut un des 3 évêques qui prêtèrent serment à la constitution civile du clergé et qui sacrèrent les évêques constitutionnels. ce fut lui qui dit la messe à la fameuse Fédération de 1790. Député à l'Assemblée constituante, il y fit plusieurs rapports sur les biens du clergé. Sous la législative, il fut envoyé à Londres pour traiter avec le gouvernement anglais. Mais quand la Révolution eut pris une pente plus rapide et plus acerbe, il devint suspect et fut contraint de se réfugier en Amérique. Après le 13 Vendémiaire, la Convention raya l'ancien évêque d'Autun de la liste des émigrés. Il reparut alors en France et y fut très protégé par la coterie de Madame de Staël. Il était discret, souple, insinuant, et gagna la faveur des directeurs Barras, Merlin, Rêvebelle et même la Révelière Lépeau, auxquels il faisait la cour, comme il la faisait jadis à Versailles. Il devint ministre des Affaires étrangères, ce qui le mit en correspondance avec le négociateur de Campo Formio. Talleyrand s'attacha dès cet instant à plaire au général et à s'insinuer dans son esprit. C'est lui que le directoire employait constamment auprès du général d'Italie. À l'approche du 21 janvier, où le gouvernement célébrait l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI, ce fut un grand objet de discussion entre les directeurs et les ministres de savoir si Napoléon devait aller à la cérémonie ou non. On craignait d'un côté que s'il n'y allait pas, cela ne dépopularisât la fête, de l'autre que s'il y allait, on oubliât le directoire pour s'occuper de lui. Néanmoins, on conclut qu'il devait y aller. Talleyrand, comme de coutume, se chargea de la négociation. Le général s'en excusa, disant qu'il n'avait pas de fonction publique, qu'il n'avait personnellement rien à faire à cette cérémonie, qui, par sa nature, plaisait à fort peu de monde. Il ajoutait que cette fête était des plus impolitiques, que l'événement qu'elle rappelait était une catastrophe, un vrai malheur national, qu'il comprenait très bien qu'on célébrât le 14 juillet, parce que c'était une époque où le peuple avait conquis ses droits, mais que le peuple aurait pu conquérir ses droits, établir même une république sans se souiller du supplice d'un prince déclaré inviolable et non responsable par la Constitution même. Qu'il ne prétendait pas discuter si cela avait été utile ou inutile, mais qu'il soutenait que c'était un incident malheureux. Qu'on célébrait les fêtes nationales et les victoires, mais qu'on pleurait sur les victimes restées sur le champ de bataille. Qu'il était assez simple d'ailleurs que lui, Talleyrand étant ministre, dût y paraître, mais qu'un simple particulier n'avait rien à y faire. Que cette politique de célébrer la mort d'un homme ne pouvait jamais être l'acte d'un gouvernement, mais seulement celui d'une faction, comme qui dirait, d'un club de jacobins. Qu'il ne concevait pas comment le directoire, qui avait proscrit les jacobins et les anarchistes, qui aujourd'hui traitaient avec tant de princes, ne sentit pas qu'une telle cérémonie faisait à la République beaucoup plus d'ennemis que d'amis, aigrissait au lieu d'adoucir, ébranlait au lieu de raffermir, était indigne enfin du gouvernement d'une grande nation. Talleyrand mettait en jeu tous ses moyens. Il essayait de prouver que c'était juste parce que c'était politique, et que c'était politique, disait-il, car tous les pays et toutes les républiques avaient célébré comme un triomphe la chute du pouvoir absolu et le meurtre des tyrans. Ainsi, Athènes avait toujours célébré la mort de Pisistrate, et Rome la chute des Décemvirs. Il ajoutait que d'ailleurs c'était une loi qui régissait le pays et que dès lors chacun lui devait soumission et obéissance. Il concluait enfin que l'influence du général sur l'opinion était telle qu'il devait y paraître ou qu'autrement son absence pouvait blesser les intérêts de la chose publique. Après plusieurs pourparlers, on trouva un mezzo termine. L'Institut se rendrait à cette fête. Il fut convenu que le membre de l'Institut suivrait sa classe, qu'il remplissait un devoir de corps. Cette affaire, ainsi ménagée par Talleyrand, fut très agréable au directoire. Cependant, quand l'Institut entra dans l'enceinte où se célébrait la cérémonie, quelqu'un qui reconnut Napoléon, l'ayant fait apercevoir, il n'y eut plus, dès cet instant, Dieu que pour lui. Ce que le directoire avait craint lui-même arriva. Il se trouva complètement éclipsé. Quand la fête fut terminée, on laissa le directoire sortir tout seul. La multitude demeura pour celui qui avait voulu se perdre dans la foule de l'Institut et fit retentir les airs de « Vive le général de l'armée d'Italie !» de sorte que cet événement ne fit qu'accroître le déplaisir des gouvernants. Un autre événement mit Talleyrand à même d'être encore agréable au directoire. Dans un café ou lieu public chez Garki, deux jeunes gens, sous prétexte de ralliement politique, suspectés par la manière dont leurs cheveux étaient tressés, furent insultés, attaqués, assassinés. Ce guet-apens avait été dirigé par les ordres du ministre de la police Sautin et par ses agents. Or, les circonstances étaient déjà telles pour le général d'Italie que, bien qu'au fond de son domicile, il était obligé néanmoins, pour sa propre sûreté, de porter une attention inquisitive sur les événements de cette nature. Il fit éclater son indignation, et Talleyrand lui fut envoyé pour le calmer. Celui-ci disait qu'un pareil événement était commun en temps de crise, que les moments de révolution sortaient de la loi commune, qu'ici il devenait nécessaire d'en imposer à la haute société et de réprimer la hardiesse des salons, qu'il était des genres de fautes que les tribunaux ne sauraient atteindre ou réprimer, qu'on ne pouvait sans doute approuver la lanterne de l'Assemblée constituante et que cependant, sans elle, la révolution n'eût jamais marché, qu'il est des maux qu'on doit tolérer parce qu'ils évitent de plus grands maux. Le général répondait qu'un pareil langage eût été tout au plus supportable avant Fructidor, lorsque les partis étaient en présence, et qu'on avait mis le directoire plutôt dans le cas de se défendre que dans la situation d'administrer, qu'alors peut-être cet acte eût pu s'excuser sur la nécessité. Mais qu'aujourd'hui que ce gouvernement se trouvait investi de toute la puissance, que la loi ne trouvait d'opposition nulle part, que les citoyens étaient tous, sinon affectionnés, du moins soumis, cette action devenait un crime atroce, un véritable outrage à la civilisation, que partout où se prononçaient les mots de loi et de liberté, tous les citoyens demeuraient solidaires les uns des autres. Qu'ici, dans cette expédition de coupe-jarret, chacun devait se trouver frappé de terreur, se demander où cela s'arrêterait, se croire sous le régime des janissaires. Ces raisons étaient trop plausibles pour avoir besoin d'être développées à un homme de l'esprit et du caractère de M. de Talleyrand. Mais il avait une mission, il cherchait à justifier une administration dont il ambitionnait de conserver la faveur et la confiance.